shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. In the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Et aujourd'hui, on vous parle de patrimoine architectural pour les classes populaires, leurs projets, des projets et des luttes. Donc les logements sociaux sont depuis plusieurs années en cours de réhabilitation. Les moyens financiers sont apportés par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui a fêté ses 20 ans cette année. De nombreuses barres construites en urgence dans les années 60 sont concernées, mais pas seulement. Ces projets de transformation urbaine menés par l'ANRU ont des visées politiques et s'accompagnent de destructions qui mobilisent contre elles les habitants. Ces luttes mettent aussi en avant la valeur du patrimoine architectural. Nous avons redécouvert à cette occasion le patrimoine de Seine-Saint-Denis, comme la cité-jardin de Stein, près de Saint-Denis. Les ambitions architecturales étaient au début du XXe siècle hygiénistes et de contrôle social. À Aubervilliers, nous avons rencontré des habitants en lutte pour la préservation de la maladrerie construite dans les années 80. À Rosny-sous-Bois, l'ex-bâtiment de Bison Futé est transformé en résidence sociale. Alors comment s'effectuent ces réhabilitations? Comment sont impliqués les habitants? Avec nous pour en parler, Violette Arnoulet, urbaniste et sociologue. Bonjour Violette.
Bonjour.
Donc elle a rédigé avec l'association Appui le rapport numéro 1 de l'Observatoire des projets urbains imposés et contestés qui a été publié en février 2024. On a aussi Claudia. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Une habitante de la ZAC Basilique à Saint-Denis, membre du collectif de défense de l'îlot 8 réalisé par l'architecte René Galousset dans les années 80. Voilà, donc avec moi il y a Marilyn qui fera aussi une chronique en fin d'émission. Et puis, Christelle, qui a la technique. Donc, on va d'abord commencer par un reportage de 23 minutes qui a été réalisé dans la cité-jardin de Stein, en Seine-Saint-Denis. Nous avons rencontré Noémie Morin-Guen, animatrice, coordinatrice de l'association régionale des cités-jardins d'Île-de-France. Elle nous fait visiter ce quartier construit dans les années 1920. Bonjour Noémie, on est à Stein, dans le quartier qui s'appelle la Cité Jardin, dans le 93.
Tu es salarié de l'association des cités et jardins Île-de-France. Tu peux nous dire où on est là précisément ?
Oui, alors on commence vraiment au cœur de la Cité Jardin, donc c'est la place Marcel Pointet qui est en fait aussi le cœur de la ville de Stains. C'est là où il y a toutes les grosses fêtes d'associations, le carnaval par-delà, c'est un plan en étoile. Les Cités Jardins, c'est un concept qui date de la fin du 19e siècle et qui voulait en fait proposer un mélange entre la ville et la campagne. Il y avait un problème de logement insalubre, notamment dans les grosses métropoles et notamment à Londres. Et donc l'idée était de désengorger les capitales en construisant du logement pour les ouvriers, mais de bonnes conditions, avec donc tous les services et tous les conforts possibles qu'on pouvait apporter à cette époque-là.
Donc oui, il y a une conception hygiéniste aussi dans cette idée des cités-jardins.
On se rendait compte à ce moment-là de l'arrivée des microbes et qu'en fait, ça ne suffisait pas d'être dans des beaux quartiers pour ne pas attraper la maladie, mais qu'en même temps, en fait, les taudis, les îlots insalubres qu'on peut trouver notamment à Paris, bah, c'est là où il y avait le plus de tuberculose notamment ou d'épidémies. Donc on va se dire, pour lutter contre les épidémies, on va lutter contre le logement insalubre.
Et donc là, il y a un projet qui est un peu différent de ce qu'on connaît des logements populaires. Il y a une volonté de faire des logements de qualité.
Exactement. Vraiment, c'est l'idée de faire... en fait, c'est aussi le tout début du logement social public, les HBM, les habitations à bon marché public. Et donc là, en fait, la Cité Jardin de Saint fait partie des premiers HBM. Donc il y a vraiment cette idée de dire, c'est plus seulement les patrons qui vont construire des cités patronales, mais ça va être aussi l'État qui va s'emparer de cette problématique et proposer des logements de qualité, mais aussi beaux, on va le voir en visitant.
D'accord. Donc là, Saint, c'est une des villes les plus pauvres de France, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une ville très pauvre. Et cette cité-jardin, elle est au milieu de logements sociaux des années 70, un peu perdus, quand même assez loin des transports en commun, en dehors des bus qui traversent la cité-jardin.
Oui, alors là, on est encore uniquement sur du logement social aussi. Hein. La cité-jardin reste toujours du logement social. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire qui est différente entre cette cité-jardin qui a été construite entre 1921 et 1933, donc durant l'entre-deux-guerres, et puis, par exemple, le Clos Saint-Lazare qui est construit juste à côté, c'est le même architecte que les 4000 à la Courneuve, donc Clément Tambuté, donc là, qui est après-guerre. Mais il faut s'imaginer que quand même, juste petite précision, ça reste des grands ensembles, des grandes barres, mais en fait, dans les cités jardins, il n'y avait pas de salle de bain. C'était le confort, mais le confort en 1930. Et donc, quand les grands ensembles d'après-guerre se sont construits avec des salles de bain, des baignoires et des chambres pour tout le monde, c'était les anciens de Stains témoignent qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était d'aller au Clos Saint-Lazare aussi.
On va peut-être avancer un petit peu.
Oui, alors juste peut-être ce que...
Alors là, il y a du vent, il faut qu'on arrive à trouver un endroit un peu à l'abri du vent.
Juste pour t'expliquer en fait que l'avenue principale, là c'est vraiment l'avenue où il y a tous les commerces, elle amène donc de la place où on est à la mairie. Et en fait tout ce territoire-là qui fait en fait 28 hectares, la Cité Jardin, c'était en fait un ancien parc de châteaux et qui a été détruit à la fin du 19e siècle. Donc après on a racheté l'ensemble pour construire la Cité Jardin. Et tout autour de cette place, il y avait tous les équipements essentiels. Donc on a bien sûr la pharmacie, le docteur, la poste, la banque, la supérette.
Et les personnes qui vont emménager ici, ce sont des ouvriers qui travaillent dans l'industrie autour de Stains, c'est ça ?
Il y a 50% d'ouvriers. Et puis après, il va y avoir des commerçants, des fonctionnaires, différents types de métiers.
D'accord. Donc là, il y a quand même une architecture en briques, c'est ça, hein ? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver un peu dans toutes les cités-jardins ?
Oui et non. C'est ce qu'on retrouve surtout dans les premiers HBM, les ancêtres des HLM.
Et après, on a quelques petits balcons,
des petites tours. Ouais, c'est une sorte de beau window, ou alors Auriel en français. Et en fait, c'était aussi toujours dans l'idée hygiéniste qu'il y ait le plus de lumière et de soleil qui rentre à l'intérieur. Il y a eu vraiment des études pour montrer que quand il y avait plus de soleil, le bacille responsable de la tuberculose mourait. Donc c'est pour ça que l'architecture hygiéniste va faire des grandes fenêtres pour faire rentrer le soleil à l'intérieur.
Toi, tu habites ici ou pas ?
Non.
Tu n'as jamais habité dans une cité-jardin ?
Non, moi j'ai spécialisé en histoire du logement social, en fait.
Mais tu n'as pas vécu dans ces logements dont on parle ?
Non.
Oui, ces petits balcons là, ils sont beaux d'ailleurs. Oui, c'est vrai que
tu vois, là, c'est vraiment en pâte de verre, donc avec un peu de la mosaïque aussi, qu'on retrouve aussi sur les façades des commerces, avec aussi un jeu sur les briques, des briques arrondies, des briques un peu triangulaires, de différentes couleurs. Et l'idée, c'est aussi de loger les ouvriers dans quelque chose de beau, ouvriers et autres. Mais,
Ce qui contraste quand même avec ce qui s'est fait après en termes de logement social.
C'est juste qu'après-guerre, on va définir les grands ensembles et on va construire énormément à certains endroits, mais il y a aussi des très belles choses faites en logement social, et je trouve que c'est toujours un peu dur et compliqué de considérer que tout le logement social c'est à jeter à la poubelle en termes d'architecture aussi.
Est-ce que les habitants qui habitent aujourd'hui dans la cité jardin, est-ce que c'est la même population qui habite autour ou pas ?
Ah bah oui, c'est du logement social, donc c'est les mêmes critères d'attribution de logement social que pour un autre type d'ensemble.
Il n'y a pas eu une transmission familiale, ou j'ai entendu dire aussi que ces logements étaient assez petits.
C'est vrai que c'est des logements qui sont plus petits, et comme je disais, par rapport au Clos Saint-Lazare, où en fait les familles elles préfèrent aller au Clos, s'ils ont une vraie grosse salle de bain, plus de chambres, un balcon un peu important.
Ah, tu vends de la drogue, c'est autre chose alors. C'est pas le sujet, la prochaine fois. Et là, alors c'est quoi cette petite... là, c'est un commerce aussi qui est là ?
Ça, c'était en fait à la base un ancien arrêt de bus. Coucou, ça va ? Vous allez bien ? Pardon. C'était un ancien arrêt de bus et après, c'est devenu surtout une bonbonnière. Je vais te montrer une photo. Et en fait, pendant très longtemps, ça a été une bonbonnière. Donc tous les enfants de la Cité Jardin se souviennent de la bonbonnière. J'ai même été dans les films. Voilà. Et là, maintenant, c'est un vendeur de poulet.
C'est super joli aussi. Hein.
Ouais, voilà.
Il y a des colonnes.
De la brique bleue aussi, vernissée, qui est assez belle. Un peu abîmée aujourd'hui, mais voilà.
Là, on va avenue Paty, c'est ça ?
Oui,
tu nous emmènes par là ?
Ouais, je nous emmène par là. Alors, ce qu'on appelle, c'est pas tout le temps comme ça, mais un peu l'avenue des Champs-Élysées de la Cité Jardin, modestement.
C'est tout petit, c'est tout petite rue.
C'est parce qu'en fait, tu vois, les autres axes, donc il y a autour de la place, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rues qui partent, et toutes partent avec des immeubles et avec des commerces en pied d'immeuble. Et celle-ci, c'est la seule qui est donc pavillonnaire, qui est assez large et qui en fait était plutôt pour les personnes un peu plus cossues, donc les notables du coin qui habitaient dans cette rue. Comme ça, après, on pourra aller voir aussi un peu plus la partie.
Mais il y a d'autres maisons, parce que moi, je suis arrivée avenue Paul Vaillant. Au début, il y a aussi des maisons par là.
Oui, il y a 1640 logements, dont 370 pavillons. Et on va en voir d'autres de pavillons, mais voilà. Et donc ici, en fait, au milieu de la rue, qui est assez large, alors que les autres rues sont un petit peu moins larges, avant, donc, c'était juste un espace vert avec du gazon. Et maintenant, il y a la pleine commune qui a réinvesti et qui en a fait un potager participatif.
Ce que je précise, en fait, c'est une grande rue, mais en réalité, c'est pas vraiment une grande rue, c'est un terre-plein au milieu, quoi.
Ouais, c'est ça. Oui, il y a que deux voies de circulation, finalement.
Étroite, avec au milieu, effectivement, des arbres, de la verdure.
Ouais.
Et puis là, on voit, en fait, les immeubles, mais côté court, on va dire, qui ont aussi des balcons. En général, les balcons, c'est plutôt pour côté rue.
Si tu veux, on en reparle après parce qu'on va mieux le voir. Ouais. Mais il y a toute une pensée d'aménagement global du collectif et du pavillonnaire aussi. Mais où là, c'est pour ça que je voulais t'emmener dans cette rue-là, où tu vois d'ailleurs, tu as l'espace public avec beaucoup de voitures, etc. Et petit à petit, on s'enfonce dans la Cité Jardin et ça devient de plus en plus protégé. Donc là, il y a encore des routes, des voitures qui passent, même si c'est une petite route, mais il y a deux. Et puis tu vas voir petit à petit, il y avoir plus qu'une route, voire juste un sentier pour aller dans un cœur d'îlot. Donc cet axe. Et aussi là, tu vois, par rapport aux maisons, tu as un tout petit jardinet un peu à l'anglaise devant la maison, avec une barrière en béton et juste 2 mètres de jardin. La maison, et puis derrière, en fait, il y a le vrai jardin qui est caché, qui est le jardin potager, nourricier, et donc chaque maison, donc là, a son jardin. Et c'est aussi, bien sûr, des maisons mitoyennes. Donc là, on a plusieurs maisons collées les unes aux autres.
Et tout est social, hein, même les maisons.
Tout est social, même les maisons. Il y a eu quelques pavillons qui ont été vendus dans les années 70-80, mais vraiment très, très peu. Et la majorité, là, tout ce qu'on voit là, c'est du logement social.
Il n'y a pas eu de projet de privatisation d'une partie de la cité jardin, comme ça peut se faire à Châtenay-Malabry.
Non, c'est pas la politique municipale et du bailleur de vendre son parc de logement social. Ah
ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'ici on est peut-être moins proche du phénomène de gentrification.
Pardon, j'ai pas entendu ta question.
Il y a un avion, c'est les avions qui passent pour le Bourget.
Ouais, c'est ça. On est et de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est atroce. Pour continuer sur les maisons, tu vois, il y a aussi différents types de couleurs. Je sais pas si tu... Donc là, on a du jaune assez vif, on a du jaune un peu plus clair, et enfin du beige gris. Et dès le départ, en fait, dans la Cité Jardin, il y avait cette envie, dans les Cités Jardins de façon générale, de varier les points de vue, et qu'un habitant qui se balade dans la Cité Jardin n'est jamais exactement le même point de vue. Donc, en fait, on n'est pas dans l'industrialisation qu'il va y avoir après-guerre, on est dans une standardisation. Donc on va avoir une vingtaine de modèles de pavillons et on va jouer avec, on va les mettre dans un sens ou dans un autre, d'une couleur ou dans une autre couleur. Et ce qui fait qu'on sent bien qu'il y a une unité, mais c'est pas comme aussi les corons, par exemple, dans le Nord, où on va avoir tous les mêmes maisons. Dans une grosse maison, on a l'impression que c'est qu'une grosse maison, et en fait, il y a quatre logements, donc deux au rez-de-chaussée et deux à l'étage, donc c'est presque du logement intermédiaire, en fait.
Ça a évolué au départ, ça a toujours été comme ça ?
Oui, même ceux qui sont à l'étage, en fait, ils ont un accès privilégié dans le jardin à l'arrière du pavillon.
Donc c'est des jardins collectifs ?
C'est des jardins individuels pour ceux qui habitent dans le pavillonnaire. Donc dans les petites maisons, ils ont donc leur jardin en bande à l'arrière. Et pour ceux qui habitent dans le collectif, il y a des jardins collectifs. Et donc là, je vais t'emmener en voir un.
Vivre dans un logement social ici, dans une petite maison, c'est pas la même chose que de vivre peut-être dans les logements, les immeubles, quoi.
Oui, mais après, en fait, je peux pas trop te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que comme c'est des petits logements, c'est aussi plus attribué soit à des personnes en seules ou en couple. Ou, enfin, voilà.
Petit logement, c'est-à-dire ?
Ça peut aller d'un studio, en fait, de 23 mètres carrés en maison, hein, à quelque chose de 40, 45 mètres carrés, 50 mètres carrés.
En maison aussi, ça ?
En maison aussi, ouais.
Et dans les immeubles ?
C'est pareil. Et donc là, tu vas tourner dans une complètement cachée, dans une petite venelle, ce qu'on appelle. Donc c'est un tout petit sentier.
Ah oui, on a l'impression de rentrer dans une maison, quoi, dans le jardin d'une maison.
Ouais, mais c'est même complètement caché, quoi, parce que ça fait 2 mètres de large, même pas. Faut imaginer si ça pousse un tout petit peu, c'est la forêt vierge. On n'arrive même pas à arriver jusqu'au bout.
Faut le savoir qu'on peut y accéder.
Et d'ailleurs, ça a été un peu oublié pendant longtemps, ces cœurs d'îlots, parce que si c'est pas entretenu, justement, ce sentier, c'est impossible d'y aller. Donc c'était plutôt, on va dire, sauvage ou avec une réutilisation urbaine par.
Là, il y a une sorte de petit jardin aussi, un peu sauvage, non ?
Des habitants.
Ah oui, ça c'est ça. D'accord.
L'arrière, en fait, d'un pavillon. Attends, il faut que je retrouve le code parce que.
Donc là, il y a une grille fermée. Donc c'est pas accessible à tout le monde.
Non, en fait...
Chouette, mon potager, association loi 1901.
Voilà. Et dès le départ, il y en avait qui étaient prévus pour être des espaces publics, comme des jardins ou des terrains de pétanque ou même de tennis, qui était hyper moderne parce que 1930, le tennis n'était pas du tout pour les classes ouvrières, c'était plus les classes bourgeoises qui faisaient du tennis. Et aussi des cœurs d'îlots qui étaient prévus pour être des jardins ouvriers.
Chaque îlot a son association, c'est ça ?
Non. En fait, à la base, les îlots, ils étaient gérés par l'association des jardins familiaux de France. Et finalement, ils ont décidé à Stein, les habitants, de créer leur propre association qui s'appelle Chouette Mon Potager, qui gère l'ensemble des jardins partagés de la Cité Jardin. Et en fait, ces jardins, ils sont accessibles pour l'ensemble des habitants de Stein, qui bénéficient d'un logement social par Seine-Saint-Denis Habitat. Donc, ceux du Clos Saint-Lazare, par exemple, peuvent aussi avoir leur jardin ici. C'est pas simplement pour les habitants de la Cité Jardin. Voilà.
D'accord. Et c'est des jardins collectifs, hein.
Alors, c'est chacun a sa parcelle.
Ah, ok.
Et c'est 1 euro le mètre carré par an.
Il y a des cabanons.
Et il y a un cabanon qui est le cabanon pour récupérer l'eau de pluie.
Ça, c'est le cabanon officiel, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Il y a le cabanon officiel pour récupérer l'eau de pluie et pour ranger les outils collectifs à l'intérieur. Et puis après, il y a en effet, chacun peut amener son petit cabanon, récupérer en plus son eau de pluie.
Ça a été réhabilité en quelle année déjà ?
Bah, ça a duré longtemps, hein. Donc ça a commencé 2008 jusqu'à 2019, quoi, quasi.
Et en fait, avant 2008, il n'y avait pas de sanitaire.
C'était déjà la grande modernité, c'est que dans tous les logements, il y avait l'accès à l'eau potable, l'électricité, des WC. Et des WC en 1920, c'est déjà énorme. Mais il n'y avait pas de salle de bain. Donc après, il y en a beaucoup d'habitants qui ont déjà fait leur propre salle de bain eux-mêmes, quoi, en bidouille. Et après, au moment de la réhabilitation, donc du coup, il y avait vraiment des salles de bain qui se sont installées.
Et au moment de cette réhabilitation, il y a eu des destructions, comment ça s'est fait ?
Non, non, il n'y a eu aucune destruction, il y a eu un gros travail de fait avec justement l'amicale des locataires, les architectes et Seine-Saint-Denis Habitat pour savoir quelles étaient les attentes des habitants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que souvent, en fait, comme c'était des petits logements, des F3, donc de 3 pièces, sont passés à 2 pièces. Parce que du coup, il fallait qu'on crée une salle de bain, on n'avait pas les mêmes normes non plus, parce qu'avant, il n'y avait pas de salon. Le salon, ça existe, c'est très récent, en fait, dans les logements populaires. Donc du coup, on a dû recréer des appartements qui, du coup, sont loués plutôt pour 2 personnes, alors qu'avant, ils pouvaient être loués pour 4 personnes, par exemple.
Il y a eu des changements de population au moment de la réhabilitation.
Voilà. Exactement, c'est ça.
On continue.
Ici, dans la Cité Jardin, on est sur du logement social le plus accessible possible, donc vraiment pour les foyers qui en ont le plus besoin. Donc aujourd'hui, on est là, oh, mais c'est génial comme logement social, mais il faut imaginer aussi qu'avant la réhabilitation, les normes de confort n'étaient pas les mêmes, c'était aussi quand même, c'est déjà des problèmes thermiques, mais c'était encore plus des passoires thermiques, donc c'est sûr que c'est aussi une évolution qui a été permise par la réhabilitation, quoi.
Et comment on peut les décrire, ces maisons ? Alors, c'est y a pas beaucoup de briques, un petit peu ?
On a une sorte de gros pavillon, on va dire, avec de chaque extrémité des maisons un peu plus avec un étage. Et au milieu, en fait, là, tu vois, tu as 2 logements, en fait, 2 studios. Donc là, tu as la porte et la fenêtre, c'est un logement. Et au milieu, donc du coup, entre les 2 studios, il y a un portique qui amène au jardin à l'arrière.
Donc on passe sous la maison pour accéder au jardin.
Exactement.
Et est-ce que ici, cette cité jardin de Stein, elle a une particularité ? Elle est un peu différente ? Enfin, comment elle se différencie des autres ?
Par le décor des immeubles, et on va aller les voir. Après, tu vois, là, on est revenu sur la place, et donc les immeubles aussi sont avec des toits en pente. Mais quand tu regardes au loin, tu as d'autres immeubles avec des toits plat. Donc c'est quand même que la Cité Jardin a été construite sur une période assez longue, donc les styles architecturaux ont aussi changé, en fait. Donc petit à petit, avec cette Cité Jardin, mais avec d'autres, on le voit encore mieux, on voit l'évolution et l'arrivée de l'art déco dans l'architecture du logement populaire.
Et je me posais aussi une question. On a tendance à dire que l'architecture peut avoir un impact sur les habitants, enfin voilà. Ouais. Est-ce que le fait de vivre en cité jardin, ça change quelque chose pour les habitants par rapport à d'autres cités de logements sociaux ?
Il y a le logement, mais il y a aussi l'accompagnement avec les services, enfin voilà, plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait quand même bon vivre dans la cité jardin de manière générale. Non, faut le vouloir pour découvrir ce petit joyau, je trouve. Mais c'est ce qui fait son charme aussi.
Ouais, ouais. Donc c'est assez aéré. Les bâtiments sont pas trop collés les uns sur les autres.
Toujours dans cette idée d'hygiénisme, il y avait le fait que les immeubles devaient être suffisamment espacés les uns des autres pour que la largeur entre 2 immeubles soit à minimum égale à la hauteur des immeubles. L'idée était justement que ça permettait enfin au soleil d'arriver jusqu'au rez-de-chaussée. Toujours dans cette perspective hygiéniste. Après, faut pas non plus... Il y a toujours les 2 côtés de la médaille. Hein. Certains peuvent critiquer le côté un peu aussi paternaliste des cités-jardins, où on allait surveiller les foyers pour vérifier qu'ils avaient bien chez eux, que c'était aéré, qu'il n'y avait pas de problème d'alcoolisme. Enfin voilà, il y a aussi toute cette partie-là dans les cités-jardins. Et voilà.
D'accord.
Et on va passer par derrière, tu vois, et on va revenir jusqu'au local.
Voilà, il y a un code, mais visiblement, il marche pas.
Donc là, tu vois, tu avais l'entrée pour les gardiens. Donc, ouais. C'était la loge du gardien.
Est-ce qu'il y a encore des gardiens ?
Non, plus comme avant, quoi. Non. Et donc là, justement, les entrées d'immeubles, Eh ben, elles se font pas sur la rue, elles se font à l'arrière, en arrière. Donc, tu parlais des balcons qui étaient à l'arrière, mais t'as aussi, en fait, les entrées d'immeubles qui sont à l'arrière. Et c'était aussi l'idée de se protéger de la rue, où il y avait quand même des voitures, et puis de créer un espace convivial en arrière où les enfants pouvaient descendre et jouer sans être trop embêtés par la circulation.
Il y a eu aussi un phénomène, on va dire, de résidentialisation avec ces portes-là.
Ouais.
Avant, c'était ouvert.
Oui, complètement. Avant, c'était ouvert. Et avant, il y avait les gardiens qui surveillaient. Parce que par contre, c'était ouvert, mais on n'avait pas, d'après les témoignages, on n'avait pas non plus trop le droit d'aller dans un arrière-cour qui n'était pas la nôtre. Plus, vous imaginez aussi les gardiens un peu stricts. Il y a beaucoup d'anciens qui nous disent que, pareil, c'était de l'espace vert, mais on n'avait pas le droit de marcher sur l'espace vert. Et donc, du coup, ils sifflaient à chaque pas sur la pelouse. Donc, c'était pas non plus...
C'était eux, les contrôleurs.
C'est ça, exactement. Il faut imaginer que c'était des champs tout autour. Hein. On est pleine commune, c'est parce que c'était une plaine fertile où il y avait beaucoup de zones maraîchères. Donc, voilà, il y a quand même aussi cette... C'est pas que des ouvriers qui travaillaient à l'usine. Il y avait une usine de chromolithographie, donc de plastique de couleur. À Stein, mais c'était pas que les ouvriers de Stein qui venaient ici, justement. Voilà. Et ici, l'entrée de la cave, qui se fait donc par l'extérieur, toujours dans cette idée hygiéniste de limiter la montée des nuisibles entre le rez-de-chaussée et les caves.
Et donc là, on va arriver dans la petite boutique de l'association en passant par derrière. En tant qu'association, vous faites de l'animation aussi de quartier.
Ouais, en fait, on est à peu près à deux tiers de notre temps sur le réseau régional, donc Printemps des Cités Jardins à l'échelle régionale, on fait plein d'actions à l'échelle régionale. Et un tiers, c'est vraiment de travailler ici, sur la Cité Jardin de Stein.
Et donc là, on arrive à la boutique, c'est marqué Bazar, Quincaillerie, mais en fait, c'est le local de l'association.
Ça a été vide pendant un temps, et puis après ça a été récupéré pour être le local mémoire de Cité Jardin.
D'accord.
Voilà. Là, en ce moment, tu as une exposition sur les commerces, justement, et aussi des portraits des commerçants actuels.
Ça, c'est une exposition qui se termine à la fin du mois.
Oui.
Et il y en a une autre qui va suivre.
En fait, regarde, quand tu déroules, on a notre exposition permanente, tac.
Ah, ok, d'accord.
Qui est caché.
Donc il y a une exposition permanente.
Qui peut être révélée, voilà, qui est une exposition permanente qui parle, contextualise sur l'histoire des Cités Jardins et qui parle de la Cité Jardin de Stein en particulier.
D'accord.
Voilà.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Donc on parle aujourd'hui de patrimoine architectural pour les classes populaires et on est avec Violette Arnoulet, qui a donc écrit un rapport avec l'association Appui et qui a aussi réalisé une thèse donc en 2023, notamment sur la ville de Stein, qui partait de la ville de Stein, une enquête, on va dire, sociologique sur les communistes et les quartiers sociaux, les communistes et les quartiers socio-histoire d'un pouvoir municipal engagé dans la politique de la ville. 1971-2018. Donc du coup, c'est un peu la période où il y a eu la réhabilitation de la Cité Jardin de Stein. Peut-être que tu peux nous dire comment ça s'est passé, parce que bon, on n'a pas eu trop d'informations en allant sur place.
Ouais, peut-être que je peux dire un tout petit peu sur quoi porte ma thèse. Donc j'ai fait une thèse en sociologie avec une approche historique et j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la politique de la ville. La politique de la ville, c'est un ensemble de programmes d'État qui vise particulièrement les grands ensembles et les quartiers d'habitat populaire, donc pas que le logement social, aussi le logement privé des classes populaires en périphérie des grandes villes. Donc classiquement, la politique de la ville, ça s'adresse aux grandes cités. Il se trouve que dans la ville de Stein, il y a la particularité d'avoir participé à ces programmes-là dès le début, alors même que d'autres villes un peu du même genre et d'autres villes communistes n'y allaient pas, n'y sont pas allées avant les années 90. À Stein, ça a démarré dès la fin des années 70. Et donc moi, j'ai regardé comment une ville communiste s'empare de ces programmes d'État, de ces programmes d'État qui ont quand même des présupposés politiques assez forts, notamment l'idée de lutter contre la ghettoisation et donc de produire... de lutter contre ce qui apparaît comme problématique, à savoir la concentration de ménages des classes populaires subalternes, le sous-prolétariat, quoi, et des classes populaires racisées, avec vraiment une entrée raciale, avec une continuité coloniale, etc. Et donc moi, j'ai regardé comment la ville de Stein s'empare de ça, donc des années 70 jusqu'à nos jours. Ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Dans ce contexte-là, les programmes de l'ANRU, à partir des années 2000, ils font partie de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est demain. Un volet urbain, un volet social, qui est fait par des associations en général, donc j'ai regardé les deux. Et sur le volet urbain, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que quand la rénovation urbaine a lieu à la Cité Jardin, à partir dans le premier programme de rénovation urbaine, donc à partir de 2008-2009, voilà, les travaux démarrent. En fait, à Stein, il y a une longue histoire de projets d'intervention sur des ensembles d'habitat social. Peut-être dire que Stein, dans les années 70, c'est plus de 2/3 des logements qui sont du logement social. C'est une ville qui a été urbanisée par le logement social et par des grandes opérations. D'abord la Cité Jardin, puis après la Seconde Guerre mondiale, des grands ensembles, quoi. Donc, ils se lancent dans la rénovation urbaine à la Cité Jardin, mais en fait, depuis les années 80, ils ont fait différents programmes. D'abord des réhabilitations au Clos Saint-Lazare, ensuite des démolitions à partir des années 90 à Allende, au Clos Saint-Lazare. Et ensuite, ils ont un grand... mais qui sont assez ponctuels, qu'ils ont du mal à financer, et qui sont des interventions voilà, ponctuelles. Dans les années 2000, ils lancent trois grands projets. Un projet au Moulin Neuf, un projet au Clos Saint-Lazare, qui est le grand ensemble de Stein, et un projet à la Cité Jardin. Au Moulin Neuf et au Clos Saint-Lazare, c'est du classique en rue. On démolit du logement social, pas tout, mais une grosse partie. Au Clos Saint-Lazare, on démolit un quart. Au Moulin Neuf, un peu plus, peut-être un tiers, je ne suis pas tout à fait sûre. Et on reconstruit du logement social neuf et sur beaucoup à Stein. Et puis, dans l'esprit de l'ANRU, de la diversification de l'habitat à Stein, ça ne s'est pas beaucoup passé, pour plein de raisons. Et puis, il y a la Cité Jardin. La Cité Jardin, c'est un ensemble très différent, qui ne date pas de la période après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas de l'architecture moderne, enfin... si, mais du début du XXe siècle, en tout cas, ce n'est pas de l'architecture de grands ensembles des années 50, 60, comme les autres cités concernées, ou 70. À Stein, il y a eu des rénovations aussi sur des cités des années 70. Et du coup, il y a vraiment une entrée patrimoniale. Donc, en même temps qu'ils font le projet de rénovation urbaine, ils créent cette boutique, la boutique Mémoire de Cité Jardin. Aujourd'hui, c'est une association. Pendant assez longtemps, c'est une sorte de service municipal, avec l'idée d'avoir une valorisation patrimoniale et touristique de cet ensemble de logements. Donc c'est une rénovation urbaine très spécifique, dans laquelle il n'y a pas eu de démolition, dans laquelle il n'y a pas eu tellement de projets de mixité sociale ou de transformation de la population. Globalement, ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est que, alors même que la municipalité de Stein avait vraiment le projet de transformer la population, notamment du Clos Saint-Lazare, mais aussi du Moulin Neuf, pour plein de raisons, ça ne s'est pas beaucoup passé. Ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre... la diversification de l'habitat qu'ils espéraient. Ils n'ont pas réussi non plus à imposer des politiques d'attribution sélective qui auraient exclu les ménages racisés. Donc à Stein, ce qui préoccupait les élus municipaux, c'était la présence des Antillais et la présence des Maghrébins. Donc voilà, ils n'ont pas réussi à les exclure des attributions, ni à avoir du logement. Elle y fait allusion dans le reportage, il y a du logement social de différentes catégories. Il y en a très social, moins social, pas tellement social. Et donc, ils n'ont pas réussi non plus à avoir une diversification interne du parc de logements. Donc, globalement, à Stein, la rénovation urbaine, elle n'a pas tellement changé la population. Et à la Cité Jardin, encore moins qu'ailleurs.
Donc, ça s'est fait globalement avec les habitants ou pas, enfin...
Alors, c'est hyper difficile comme question quand on remonte dans le temps. Moi, je suis arrivée à Stein en 2014 et j'y ai travaillé pendant 6 ans, puisque je travaillais pour l'intercommunalité dans le service de rénovation urbaine et ensuite j'ai fait ma thèse. Donc j'arrive après la bataille, quoi. Le projet, il a été élaboré 2004, 2005, 2006. Moi, j'étais pas là. Ce dont on trouve des traces dans les archives, c'est tout ce qui concerne la fabrique d'un projet urbain. Quand on fait un projet urbain, on fait un concours d'architecte. En tout cas, dans ces années-là, on fait un concours d'architecte. Ensuite, on fait des consultations pour des entreprises. On a des négociations financières avec l'État, bailleurs, mairies, etc. Ça, j'en trouve des traces. La concertation, pour plein de raisons, mais qui tiennent aux politiques d'archivage, ça laisse peu de traces. Moi, quand je travaillais au Clos Saint-Lazare, j'étais en charge de la concertation. Sur cette cité-là, j'ai fait un travail d'archives des réunions qui s'étaient passées et j'ai vu qu'il y en avait eu pas mal. J'ai vu que cette future association Mémoire de Cité Jardin, elle avait organisé des balades, elle avait organisé beaucoup d'événements, notamment des événements artistiques participatifs, hein, qu'il y avait eu pas mal de choses qui avaient été faites. Est-ce que ça constitue une concertation qui a permis aux habitants, aux premiers concernés, disons, de se faire entendre, d'avoir la réhabilitation qu'ils espéraient, d'avoir la personne que vous interviewez, elle fait allusion au fait qu'on change les typologies de logements au cours d'une réhabilitation, qu'on passe de logements un peu plus grands à des logements de la même surface mais organisés différemment, donc attribués à d'autres. Ça, moi, j'en vois pas de traces dans les archives que j'ai consultées, parce que ça, c'est le bailleur social qui le fait. C'est le bailleur de la Seine-Saint-Denis. Consulter ces archives, c'est assez complexe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes obligations que les mairies. Donc, en fait, je ne vois pas comment ça se passe.
D'accord.
Et ce qu'on sait, c'est qu'à la Cité Jardin, par rapport au Clos Saint-Lazare, il y a depuis très longtemps une amicale de locataires assez solide qui a suivi l'ensemble du processus des réhabilitations.
Oui, j'ai eu contact avec elle, mais je n'ai pas pu la rencontrer pour le reportage.
Ouais. Comme souvent, c'est une amicale qui est toute petite. Comme souvent dans les villes communistes, c'est une amicale CNL, donc qui est en fait proche des élites municipales, puisque la CNL, historiquement, sont les amicales de locataires du Parti communiste. Castin, on est dans une ville communiste, donc c'est pas un instrument de conflictualité très fort.
D'accord.
Et puis, moi, quand je les ai fréquentés, il y avait plusieurs anciens salariés du bailleur qui étaient investis dans cette amicale parce qu'ils habitaient dans la Cité Jardin. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment un outil pour se faire entendre. En tout cas, ils étaient là, ils ont suivi le projet.
D'accord. Donc, maintenant, on peut peut-être parler un peu plus précisément, effectivement, du travail que tu as réalisé avec l'association Appui, donc le rapport numéro 1 de l'Observatoire des projets urbains imposés et contestés. Hein, donc, vous l'avez publié en février 2024. Donc, déjà, à l'époque, tu étais avec l'association Appui quand tu l'as rédigé. C'est quoi cette association?
Bon, l'association Appui, c'est une asso qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été fondée en 2013 par une rencontre entre des chercheurs en sociologie urbaine, des architectes, notamment des enseignants d'architecture et des militants de quartier. On peut citer les noms. En fait, c'était la rencontre entre Agnès de Boulay, qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la rénovation urbaine, Régnier Audet, qui est un enseignant qui a été enseignant à l'École nationale d'architecture de Val-de-Seine, et puis Mohamed Raghoubi, qui était le président, ou en tout cas une des figures centrales de l'amicale de locataires de La Coudrée à Poissy, et qui était venu solliciter les deux précédents, parce que à La Coudrée à Poissy, donc Poissy, les usines...
Dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, département très chic, ville avec des cités populaires, parce qu'il y avait des grandes usines de voitures. Quoi. Et donc ces cités, elles font l'objet quand même de politiques de rénovation urbaine très agressives.
Ouais.
Et elles sont avec des projets de démolition très agressifs, très massifs. Enfin, c'est beau. Enfin, ça me paraît, en tout cas vu de l'extérieur, plus brutal que ce qui s'est passé à Stein. Mohamed, il sollicite ses chercheurs en disant « On n'arrive pas à se faire entendre, on a besoin d'arguments dans la même langue que les gens qui nous imposent ces projets-là. » Donc lui, il a cette intuition militante de se dire « En fait, il faut qu'on arrive à proposer nos propres projets. » Notre propre concertation pour pouvoir contester ces projets-là. Ils se retrouvent et ils gagnent. En fait, la démolition de La Coudrée, elle est seulement partielle. Voilà, ils emportent la bataille et donc ils montent l'association Appui. Et du coup, cette association, depuis une dizaine d'années, alors c'est une association qui fédère un réseau de soutien. Et puis, il y a un ou deux salariés. Moi, l'année dernière, je travaillais pour eux. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ce rapport. Elle se met au service de collectifs d'habitants ou d'associations plus constituées qui veulent se faire entendre sur des projets urbains. Souvent, c'est des associations contestataires, donc c'est des amicales, des habitants qui sont contre des projets, souvent des projets de démolition, mais pas toujours. Ça peut être aussi des gens qui contestent le fait de ne pas être associés et qui souhaitent apporter des éléments qui viennent des habitants et qui, pour ça, ont besoin de gens qui les traduisent, en fait, simplement.
Et du coup, ça, parce que la concertation, elle est prévue dans l'ANRU. Donc, tu peux nous parler un peu de l'ANRU, nous dire, parce qu'on en a entendu parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est.
Bon, alors, en 2003, il y a une réforme de la politique de la ville et il y a la création de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. La réforme de 2003, on l'appelle souvent la loi Borloo, puisque c'est Jean-Louis Borloo qui est le ministre de la ville à cette époque-là. Il est très médiatisé, très charismatique et il lance un grand programme de rénovation urbaine en faisant un coup de force au sein de l'État. Il met la main sur l'argent du 1% logement. Donc il se retrouve avec un guichet unique, qui est l'ANRU, qui a ses fonds qui sont très importants, et qui lance une sorte d'appel à candidature. Donc les villes, très vite, en disant, voilà, les maires, vous êtes porteurs de projet, vous montez votre projet, et si ça nous intéresse, on vous finance. Il pose deux principaux. Le premier, c'est casser les ghettos. Donc ça veut dire démolir le logement social. Dans son esprit. Et le second, c'est diversification de l'habitat. On va construire du privé, pour ça il met en place plein de mécanismes pour le rendre possible. Et puis on va diversifier aussi en termes de fonctions, donc ils vont mettre le paquet sur les commerces, les équipements, etc. Ça, c'est l'ANRU. Il y a un premier programme qui est lancé donc en 2003 et qui court jusqu'à à peu près 2018, 2019, 2020 pour les opérations. Et puis, il y en a un second qui est lancé en 2014 et qui relance une nouvelle vague de projets sur d'autres quartiers. Dans le premier programme de rénovation urbaine, ça va très vite. En fait, les villes, elles ont très peu de temps pour monter leurs projets. Et donc, c'est des projets qui sont très peu concertés. Et c'est hyper contesté, non seulement de la part d'habitants, de la part d'observateurs, de chercheurs, de journalistes, mais aussi au sein de l'État. C'est-à-dire, en fait, depuis les années 70, en France, il y a une nouvelle norme des projets qui est la concertation des habitants. Et donc, au sein de l'État, ça grince des dents. Au sein des bailleurs sociaux, au sein des municipalités, il y a des gens qui critiquent ces projets qui ont été ficelés trop vite. Et donc, dans le second programme, il y a un principe de co-construction qui est inscrit dans le règlement du programme, c'est-à-dire pour être financé, a priori, les projets doivent être co-construits, c'est ça le terme qui est mis. Et puis, il y a des moyens qui sont mis pour faire des études préalables, pour que les municipalités et les bailleurs et les porteurs de projets plus généralement, ils puissent concerter.
Et donc, du coup, effectivement, l'ANRU, donc il y a l'idée de la concertation, mais pas que ça, en fait. Derrière cette volonté politique de réhabiliter, il y a d'autres... Tu parlais de mixité sociale, enfin, est-ce que tu peux développer un peu politiquement ce qu'il y a derrière?
Ouais, il faut vraiment se dire que ces programmes de rénovation urbaine, ils prolongent en fait des choses qui existent dans les politiques urbaines depuis la fin des années 70. La politique de la ville, dès le début, c'est l'idée de lutter contre un phénomène qui est qualifié de ghettoisation, c'est-à-dire la concentration de ménages pauvres et racisés. C'est les deux ensemble depuis le départ, avec vraiment l'idée qu'il faut changer les attributions, trouver des moyens d'empêcher la concentration, le regroupement des populations dont on juge qu'elles posent problème, qu'elles posent problème. Par le simple même fait même de vivre côte à côte. Mais pendant longtemps, il y a peu d'outils pour le faire réellement. Et donc c'est une politique qui a du mal à agir sur son principal objectif. À partir de l'ANRU, on met des moyens autour vraiment de ce slogan qui est « casser les ghettos ». Donc le projet de l'ANRU, c'est bien casser des concentrations de ménages pauvres et racisés. Et pour faire ça, l'outil qui est choisi par l'ANRU, c'est pas le seul qui était possible, c'est de démolir massivement. Donc, ça pose un problème avec ce nouveau principe de co-construction. Là, au printemps dernier, c'était les 20 ans de l'ANRU. Il y a eu un grand colloque organisé par l'ANRU elle-même, dans lequel il y avait plusieurs chercheurs. Il y avait notamment Julien Talpin qui était là, qui est un spécialiste de la participation. Et en fait, il a dit assez simplement, il a résumé bien le problème en disant ça ne marche pas de dire à la fois on vous impose de démolir et de disperser les habitants, et d'autre part, on vous impose de concerter avec les habitants. Puisque si vous faites ça, si vous dispersez les gens, les habitants préalables ne sont plus les habitants post-projet. Donc vous avez un groupe de gens à qui vous ne demandez forcément pas leur avis, et puis vous avez un nouveau groupe de gens que vous ne connaissez pas. Donc en fait, la co-construction, ce n'est pas possible. En fait, il y a un problème dans le principe. Et ça renvoie à la fois à des luttes au sein de l'État, c'est-à-dire il y a différentes visions des projets urbains, à des formes d'hypocrisie aussi, et de paradoxes en fait, dans les politiques publiques. Et puis ça pose des difficultés sur le terrain, des difficultés très précises, notamment... pour les habitants qui subissent les projets, puisqu'en fait, ils ont très peu leur mot à dire en réalité, mais aussi pour les municipalités. Moi, j'ai travaillé sur le nouveau programme de rénovation urbaine à Stein. Le maire de Stein, il était assez sincèrement engagé du côté de la concertation. Lui, c'est un maire communiste. Les habitants des cités HLM, c'est son électorat, pour être un peu rapide. Il y avait un nouveau quartier qui s'appelle... La prêtresse qui est rentrée dans la rénovation urbaine, qui est un tout petit quartier. Et lui, il s'était engagé dès le début à ne pas faire de démolition, puisque c'était un quartier dans lequel les gens vivaient assez bien et s'étaient mobilisés très vite dans la crainte de la démolition. Et en fait, ces démolitions, elles lui ont été imposées au fil des négociations par le financeur, puisque ça relève de ses principes de financement. Donc c'est ça qui est, je pense, c'est une des choses qui est très dure à vivre pour les gens. Non seulement ils subissent des travaux qu'ils n'ont pas tellement choisis, des déménagements sur lesquels ils ont très peu de marge de manœuvre, mais en plus, assez souvent, ils ont, avant tout ça, participer à des sortes de simulacres de concertation. Donc il y a des balades, il y a des rencontres, si les choses sont bien faites, il y a plein de réunions, il y a des choses dans l'espace public, il y a des affichages, il y a des expositions comme à la Cité Jardin, voilà, blablabla. Et puis en fait, ça sert à rien. Quand bien même, ils ont face à eux des élus qui sont pas toujours cyniques. Ils peuvent l'être, mais pas toujours.
D'accord. Et alors peut-être on peut donner quelques exemples par rapport au patrimoine architectural, parce que j'ai l'impression que effectivement, qu'est-ce qui fait que nous on s'est posé la question, on a réalisé qu'il y avait quand même un patrimoine architectural en Seine-Saint-Denis, c'est aussi parce que des associations dans leur lutte contre les démolitions ont mis en avant leur patrimoine architectural pour ne pas que ce soit démoli en fait, c'est ça hein.
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui a été assez fort dès le début de l'ANRU. En fait, dès les premiers programmes de rénovation urbaine, dès les années 2000, en fait, il y a des grands noms de l'architecture. Notamment, il y a Paul Chemetov qui se dresse contre telle ou telle démolition parce que ils estiment, ces architectes des années 50, 60, 70, qu'ils sont comme des auteurs d'œuvres architecturales et donc en fait que leur nom est en question. Et c'est aussi le cas de Renaudy et Gayousté, dont on pourra parler tout à l'heure. Voilà, ils ont pris des positions, eux ou leurs héritiers, contre ces projets de rénovation urbaine. Et à ce moment-là...
Pas contre la rénovation, mais contre la destruction.
En fait, les deux. Ah, okay. Contre les deux. C'est-à-dire, ils étaient pour des projets de réhabilitation, de requalification de ce qu'ils avaient construit. Mais en fait, les rénovations urbaines, un peu généralement, pour d'autres raisons, aussi des raisons assez intéressantes, elles proposent notamment de l'isolation par l'extérieur. Et ça, ça change les façades en... enfin voilà, les traitements particuliers des façades, et donc ils ont pris des positions d'un point de vue œuvre architecturale, enfin d'un point de vue patrimonial, des fois sans trop de considération pour l'usage social de leur bâtiment, pour le fait que c'est d'abord des logements, quoi. Donc ça a fait vraiment monter l'idée du patrimoine du XXe siècle, qui est un peu maintenant une tarte à la crème, mais il y a 20 ans c'était assez nouveau. Et c'est vrai que c'est un argument qui est beaucoup pris dans les luttes et dans les collectifs d'habitants qui se mobilisent contre des démolitions.
En fait, globalement, les habitants se mobilisent toujours contre les destructions. Enfin,
ben, je pense que c'est... Alors, dans le rapport qu'on a fait, on a documenté 45 cas, je crois, de lutte contre des projets urbains. Il n'y a pas que des projets de rénovation urbaine, mais c'est la masse. En France, dans le premier programme, il y a eu 400 quartiers, et dans le second, quasiment autant. Donc, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que ce n'est pas la règle, la contestation. Ce que je pense, moi, et ce que montrent un peu les travaux sur la participation, c'est qu'il y a toujours des formes de contestation, de protestation, de grogne, mais elles ne prennent pas souvent la forme d'une contestation organisée qui arrive à se faire connaître, qui arrive à se faire entendre et qui arrive à se diffuser au-delà des sphères locales. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la forme de base de la contestation, et ça, c'est omniprésent, c'est le fait de râler ou de protester en réunion publique. C'est-à-dire, en fait, de façon paradoxale, c'est l'ouverture d'instances de concertation qui fait qu'il y a de la contestation. Mais ça ne va pas souvent plus loin que ça. C'est-à-dire, en fait, c'est très difficile, dans un projet de rénovation urbaine, de faire émerger une contestation collective, parce qu'il y a de moins en moins d'amicales. Donc, en fait, que globalement, les locataires du parc social, ils sont mal structurés, pas structurés collectivement pour défendre leurs intérêts. Et puis aussi que les projets de démolition, ça met les uns et les autres face à des... mais les projets de réhabilitation avec des hausses de charges importantes aussi, ça met chaque locataire face à son propre arbitrage. Et en fait, très vite, il y a des logiques individuelles qu'on peut tout à fait comprendre, qui se mettent en place et qui cassent les collectifs. Notamment parce que, en fait, la rénovation urbaine, ça a beaucoup engorgé les demandes de mutation. Parce que quand on démolit massivement, tous les gens qui sont concernés par la démolition, bah, ils s'en vont. Et donc, eux, ils passent avant tous les autres dans la file d'attente du logement social. Et donc, ça fait qu'avoir une mutation, c'est très dur. Et que du coup, les projets de démolition, pour une partie des habitants, c'est aussi l'occasion de changer d'endroit. Et donc, il y a des gens qui ont des stratégies individuelles. Et ça rend difficile, en dehors des pratiques de répression de la part des porteurs de projets qui existent aussi. Mais je veux dire, comme c'est hyper chaud d'avoir un logement social, que c'est très difficile d'en bouger, et ben voilà, les stratégies individuelles, elles sont fortes et on le comprend bien, quoi.
Et tu peux nous parler de quelques exemples que je trouve intéressants, qui ont un rapport direct avec le patrimoine. Il y a Roubaix, par exemple, en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a Roubaix, il y a peut-être aussi la... Enfin, commençons par Roubaix, déjà.
Ouais, alors, il y a une lutte en ce moment depuis 2021, depuis 2021, en gros, dans le quartier de l'Almagar à Roubaix. Le quartier de l'Almagar à Roubaix, c'est un quartier qui est très connu des gens qui s'intéressent aux luttes urbaines, parce que, en fait, c'est un quartier qui est né d'une lutte urbaine. Dans les années 70, c'était des courées qui devaient être totalement démolies. Il y a eu une mobilisation qui a duré 10 ans, qui a fait émerger un collectif mixte habitants-militants et qui a obtenu la réalisation d'un quartier neuf. Donc les courées ont été démolies, mais qui répondait aux façons de vivre des habitants des classes populaires, des ouvriers de l'industrie textile, etc., qui est à Roubaix. 40 ans plus tard, il y a un projet de démolition assez brutal qui prévoit de démolir un tiers de ces logements. Donc c'est des logements qui ont été construits dans les années 80. Donc on n'est pas dans le cadre d'une cité, on n'est certainement pas dans le cadre d'une cité d'urgence des années 50. On n'est pas non plus dans le cadre de la grande industrialisation de la production urbaine des années 60. On est dans le cadre de logements récents, de bonne qualité, qui ont été mal entretenus et qui ont vieilli, mais qui sont encore tout à fait en état. Et donc il y a une lutte depuis 2021 qui s'oppose à cette démolition. Cette lutte, elle arrive tard, puisqu'en fait, le collectif, il s'est mobilisé au moment où il y a eu démolitions, enfin où les relogements ont commencé. Donc en fait, le projet il est totalement bouclé et il est mis en œuvre de façon brutale et à marche forcée, avec, enfin d'abord avec des intimidations. Donc le leader de ce collectif, il s'appelle Florian Vertrieste. Il a subi beaucoup d'intimidations. Toutes les personnes autour de lui aussi, de la part de la municipalité, sur son travail, sur sa famille, sur ses loisirs. Ensuite, il y a eu l'installation d'un mur de 3 mètres de haut, de je ne sais pas combien de mètres de long, pour boucler tout un périmètre et pouvoir faire la démolition. Ensuite, ils ont mis de la surveillance sur drone, et maintenant, le quartier, depuis novembre, est totalement bouclé par des CRS. Donc c'est vraiment une répression très forte de la part d'un maire qui s'appelle Guillaume Delbar. Je pense que c'est important de le citer, qui est un ancien Les Républicains, qui a été un moment proche de Darmanin, qui est quelqu'un qui a été condamné à de multiples reprises pour corruption, qui est très isolé à l'échelle de la métropole et qui pousse coûte que coûte un projet dont le but avoué, pendant le rapport, on a rencontré le président ou le directeur général de l'office HLM qui doit faire ses démolitions, et il nous disait en fait c'est un projet qui est poussé par la mairie et dont le projet est de dédensifier. Concrètement, ça veut dire démolir pour ne pas reconstruire. En fait, c'est un projet assez spéculatif qui vise à geler des terrains en se disant on vire la population qui nous gêne et plus tard on aura des terrains pour construire du privé quand ce sera attractif. Donc c'est un projet extrêmement brutal. Ils ont fait plusieurs recours au tribunal administratif, ils n'ont pas gagné. De toute façon, les recours, c'est toujours très dur parce qu'ils ne sont pas suspensifs. Donc c'est une lutte très coûteuse, très complexe techniquement, et puis en fait, ça ne bloque pas le projet. Ils ont eu beaucoup de rassemblements, il y a un soutien très fort, beaucoup de presse, beaucoup d'intellectuels, l'association des urbanistes de Hauts-de-France est mouillée, il y a plusieurs grands noms de l'architecture qui ont pris position, mais le maire, il ne bouge pas. Ce qui est quand même ce qui est incompréhensible. Il y a eu des rencontres entre le collectif et la direction de l'ANRU qui s'était plutôt montré à l'écoute, mais en fait ça continue quand même. Donc c'est, pour moi c'est un peu un mystère comment ce projet il peut continuer alors qu'il n'est pas alors que c'est un mauvais projet et que c'est un maire isolé, corrompu. Voilà.
Bon, on va écouter une autre lutte. Donc là, on est parti à Aubervilliers, à la Maladrerie, donc un quartier qui a été réalisé dans les années 80 par René Galoustet. Et on a fait la visite avec Gilles Jacquemot et Catherine Fiumani, qui sont des architectes qui vivent sur place. Bonjour Catherine, et puis bonjour Gilles, pardon. C'est Gilles Jacquemot. Donc bonjour, on est à la Maladrerie. Je suis passée donc sous un porche et je suis arrivée dans le local où vous avez dans votre agence d'architecture. Vous travaillez là depuis bien longtemps et on avait envie de connaître un peu ce lieu. Alors vous y travaillez et puis vous y êtes habitant et vous avez créé un collectif pour la réhabilitation donc de la Maladrerie. Peut-être nous présenter les lieux. Qui commence, Catherine ?
Juste pour vous situer un peu la Maladrerie, elle a été donc réalisée en 80 à partir de 78. Donc l'opération comprend 850 logements sociaux, dont 27 pavillons, qui sont donc en limite de la Maladrerie. Et l'opération s'est réalisée en une dizaine de tranches de logements. L'architecte a ciselé les bâtiments, presque comme des rochers. Elle travaillait en maquette. L'intérieur de ces bâtiments va être décomposé en logements. Et les logements sont tous différents. C'est ça la caractéristique. L'architecte disait qu'il n'y a pas de famille type, donc elle offrait une diversité dans les logements et on a donc 850 logements différents. Elle a proposé des formes d'ordre pyramidal, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'on monte, les plateaux sont de plus en plus petits. Et ça permet d'avoir donc des terrasses-jardins à tous les étages. D'ailleurs, c'est le nom d'une association qu'on a créée en 1995 pour défendre et valoriser les terrasses. Le troisième point important, c'est la qualité des espaces extérieurs. On a une richesse de tracés au sol qui ont été réalisés d'ailleurs avec un collaborateur de René Galoustet, qui s'appelait Gérard Chirex et qui était sculpteur, avec des chemins de modulation différentes, un axe principal, et puis à partir duquel se ramifient plein de petits cheminements, et puis une richesse de revêtement de sol. Alors on a de la brique, des parpaings, des pavés, et puis des espaces identitaires, comme le bassin. Alors le bassin, c'est extraordinaire d'avoir un bassin avec de l'eau, des nénuphars, des poissons, des iris. un héron qui vient nous rendre visite, on a des grenouilles, on a des tortues. Alors on a ça, c'est le lieu identitaire de la maladrerie, et on a d'autres lieux comme des placettes et puis la grande prairie.
Oui, je rajouterais une autre caractéristique intéressante, enfin, qui est un prolongement des cheminements extérieurs, ce sont les cheminements, les passages couverts, les cheminements sous les bâtiments, qui ont posé beaucoup de problèmes aux bailleurs, qui auraient voulu s'en débarrasser, qui a été un enjeu important et pour lesquels les habitants se sont mobilisés pour les maintenir, parce que ce sont des circulations, on peut traverser l'ensemble du quartier à l'abri. Quand il pleut, on peut traverser sans être mouillé. Quand il fait très chaud, on peut traverser à l'ombre dans ces circulations. Et ce sont de multiples circulations et elles participent à la même richesse que les circulations extérieures. Donc c'est un combat que nous avons mené d'ailleurs dans le cadre du projet qui est en cours, puisque c'est un des éléments qui risquait de disparaître. Alors pour dire simplement, c'est que ce quartier, les gens qui habitent ce quartier ont vraiment la conscience d'habiter un lieu particulier. Et c'est un élément important parce que ce quartier est fait pour qu'on se rencontre, pour qu'on se parle, pour qu'il y ait de la solidarité. Et il y a plein d'associations dans le quartier. Il y a des activités très régulières où toutes les associations se retrouvent, très diverses, hein, associations culturelles, environnementales, associations de locataires, associations communautaires, lyriques, etc. Et toutes ces associations, quand il y a un danger qui menace le quartier, elles se mobilisent également toutes. Et je pense que c'est vraiment lié à l'architecture. Et dans les projets en rue qui sont prévus, une des grandes idées des projets en rue, c'est ce qu'ils appellent la résidentialisation, c'est-à-dire qu'on enferme chacun des bâtiments, on essaye de trouver des bâtiments, parce que là c'est un peu compliqué de trouver des bâtiments, mais on arrive quand même à trouver quelques ensembles qui peuvent former un bâtiment, et on les enferme dans une grille, et on divise la cité. On rend concurrents les bâtiments les uns par rapport aux autres, on isole les gens, il y a plus, on casse le quartier. Et justement, donc, je crois que les habitants ont bien compris les enjeux et on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de résidentialisation, et il n'y aura pas de résidentialisation. D'ailleurs, dans une initiative, on avait, avec de la rubalise, on avait marqué les grilles qu'ils allaient poser, et puis quand les gens voyaient, ça serait fermé là, non, c'est pas possible, il faut qu'on puisse circuler, non, on est contre ça, etc. Parce qu'à chaque fois, l'ANRU revient à la charge pour essayer de... Si c'est pas des grilles, ça sera des haies, puis il y aura des petits portillons ouverts, etc., qui à terme seraient fermés, on ne veut pas. Donc ça c'est un point qui est très important, qui participe à la philosophie d'origine du projet. Je voudrais ajouter une petite chose aussi sur l'intérieur des logements. Les logements sont tous différents, mais c'est une invention de ce type d'architecture. Ce sont des logements collectifs, et ce sont des logements collectifs individuel, complètement individualisé. Il y a des pièces en triangle, il y a des courbes, enfin bref, les logements sont très, très désarticulés, avec un séjour souvent le plus grand possible, et des chambres les plus petites possibles, mais pour que les gens se rencontrent. L'idée, c'est qu'on se rencontre et qu'on échange.
Quand on a parlé tout à l'heure de la résidentialisation, nous, dans notre lutte, on a toujours... comment lier ça à la philosophie de l'architecte. Quand on veut fermer les propriétés, ça veut dire qu'on veut laisser ces cheminements praticables que par les habitants qui iront dans leur cage d'escalier pour accéder à leur logement. Et l'architecte, elle était opposée. Elle disait que c'était le chacun chez soi, chacun pour soi. Parce qu'elle a toujours, même si elle ne revendiquait pas forcément sa référence au vieux centre-ville, elle l'a vraiment, on sentait que dans ses projets, c'était toujours très présent. Parce que ce qu'elle appréciait dans les centres-villes, les vieux centres-villes, c'était donc tous ces cheminements labyrinthiques, mais aussi ces points de rencontre, ces petites placettes. Vous savez, dans les villes italiennes, on a les placettes, où les gens échangent. Se rencontrent, discutent. Et
donc là, on arrive à la mare.
Alors là, oui, le bassin.
Et donc là, il y a aussi beaucoup de... En tout cas, pour les... là, je vois aussi encore un logement très ouvert.
Oui, alors ça, ce sont tous les locaux en rez-de-chaussée qui, donc, fonctionnent souvent en mezzanine avec un deuxième niveau parce qu'ils ont, en fait, deux hauteurs.
D'accord.
À l'origine, c'était des locaux d'activité. Enfin, là, c'est un local d'un bureau d'un maîtreur, un maîtreur qui avait travaillé avec René Gayoustet et qui a été transformé en logement. Notre local, c'est un local d'activité qui restera encore en local d'activité. Mais à côté, derrière nous, il y a aussi un grand local, ex-local d'activité, qui a été transformé en logement. Une chose importante aussi à préciser, c'est que c'est un quartier qui est entièrement piétonnier. Hein, c'est vrai que les voitures ne rentrent pas.
On a entendu de voitures, mais voilà, c'était pour les entretiens.
Entretien, etc.
Très précurseur, parce que piétonnier, et puis en même temps écoquartier avant l'heure.
Mais alors du coup, ça fait longtemps peut-être que déjà il y aurait dû y avoir une réhabilitation.
Oui, mais en fait, donc, l'ensemble du quartier est la propriété de l'OPH, hein, l'Office public d'habitation de Vervilliers. C'est un bon, un, comme tous les OPH, bon, ils n'ont pas d'énormes moyens. Et donc ils ont, ils entretiennent le minimum. Et aujourd'hui, il est important de faire des travaux vraiment fondamentaux, notamment d'amélioration thermique des logements, problème de mise aux normes de l'électricité, la plomberie, etc. Et alors bon, tout ça, ça demande des financements que n'a pas l'Office. Donc les seules procédures qui existent pour faire ces travaux, c'est l'ANRU. Mais cet argent public n'est redonné qu'à condition de respecter un certain nombre de règles, notamment la résidentialisation, la privatisation aussi. Alors ce quartier a été associé à un autre quartier à côté qui s'appelle la cité Émile Dubois, qui a été construite en 1950. Et là, il va y avoir, sur les 800 logements, 400 logements à peu près, ou 300 et des poussières, qui vont être démolis pour être remplacés par des logements en accession à la copropriété. Donc là, ça rentre vraiment dans le cadre de l'ANRU. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la première municipalité avait associé les deux pour que l'ANRU se gave sur l'autre quartier pour ses démolitions et laisse tranquille un petit peu la maladrerie et ne démolisse pas. Malgré tout, il était question à un moment donné de démolir les pavillons.
Ah oui, alors ils sont où ces pavillons ?
C'était deux pavillons. Alors là, nous sommes dans l'axe principal. Hein. Et nous, ce qu'on adore, c'est cette perception un peu linéaire, là, hein, qui va vers la rue de la Maladrerie. Et ici, quelque chose de beaucoup plus tortueux qui va vers la rue Jules Guesde. Et pour moi, ici, c'est une sorte de croisée des chemins qui est vraiment très, très réussie.
Donc il y a les deux petits pavillons en bout.
Il y a une vingtaine de pavillons là, qui sont tout autour, qui entourent une ancienne parcelle industrielle, qui existe toujours d'ailleurs, qui est derrière. Et justement, ça permettait de créer la transition entre ces bâtiments un peu hauts, hein, de 3, 4, 5, 6 étages, avec l'usine qui fait l'équivalent d'un étage. Quoi. C'est des 5 pièces, 6 pièces, etc. Il y a même une partie de ces pavillons, 8 pavillons qui ont été réalisés dans une deuxième tranche, qui étaient destinés aux musiciens, parce qu'il y avait des sous-sols qui étaient un peu semi-enterrés, qui permettaient de répéter et justement de limiter les nuisances sonores quand on a des musiciens qui répètent dans leur logement.
Alors on va aller voir, on a une petite placette ici, auquel on tient beaucoup. C'est l'échelle d'un petit hameau ici.
Donc là on est sur comme une sorte de petite placette avec tous les pavillons autour.
Et là, en fait, vous avez également des terrasses, des jardins. Oui. Non seulement ils ont un jardin, un petit jardin devant, mais aussi des terrasses-jardins à l'intérieur. Alors, dans la première partie du projet ANRU, il était question de démolir tous les pavillons. Ensuite, alors évidemment, quand on a appris ça, les gens, le collectif qui s'est créé a protesté, etc. Donc les élus ont dit, non, on ne va pas tout démolir, on n'en démolira que 7. Puis ensuite, c'était plus que 2. Et 2 pavillons qui étaient situés ici, là. Parce que ces 2 pavillons permettaient de créer une voie qui se raccordait à la rue Casanova. Alors nous, quand on a vu ça, on s'est dit surtout pas, parce que c'est une voie, et donc on va ramener progressivement la voiture à l'intérieur. Donc on s'est battu pour que ces pavillons ne soient pas démolis. En fait, ils ne seront pas démolis dans la dernière mouture. On a en fait gagné sur le fait des démolitions qui ne seront pas réalisées.
Alors déjà en 2018, à l'ANRU 2, hein, parce qu'il y a eu une première ANRU 1, et le projet a été abandonné parce que le maire s'est engagé à respecter ce que les habitants voulaient. Vous voyez, depuis 2008, on se battait. Donc pas d'ANRU 1. L'ANRU 2 redémarre, donc c'est relancé sur la Maladrerie. Et de nouveau, vu la réaction des habitants, le projet est modifié. Il n'y avait plus de démolition, il n'y avait plus de résidentialisation. Et la municipalité change de camp et la nouvelle municipalité revient à la charge avec démolition des pavillons. Alors depuis 2020, vous vous rendez compte, ça fait 4 ans qu'on se bat pour protéger cette maladrerie, ne pas démolir, c'était ces 2 pavillons-là. Et alors l'idée, c'était de créer une voie qui allait rejoindre l'axe principal dont on vous a parlé, et puis qui allait créer 3 îlots. C'est 9 hectares, hein, la maladrerie, donc on aurait eu 3 îlots de 3 hectares.
Et alors, je voudrais quand même qu'on décrive un petit peu plus les lieux. Il y a beaucoup d'arbres, en fait. Hein. À chaque place, il y a des arbres. Bon, on voit aussi des arbres, même sur les terrasses, finalement.
Alors, les terrasses sont prévues pour des arbustes plutôt que des arbres. Mais c'est vrai qu'il y a des arbres aussi qui ont poussé parce que tout simplement, les oiseaux ont emmené les graines et les gens se retrouvent avec un arbre qui pousse comme ça au bout de 40 ans, c'est sûr.
Là, c'est là, comme des octogones un peu, il y a une forme intéressante. Enfin, intéressante.
Bah, avez... Et puis ici.
Alors, y a, en fait, c'est des, à la base, la géométrie, ce sont des carrés et des triangles équilatéraux. Et en combinant les uns et les autres, avec aussi également la diagonale du carré, ça vous donne cette géométrie qui est parfois un peu enveloppante, un peu arrondie, ou parfois beaucoup plus angulaire, beaucoup plus étoilée, en fait. Et puis quelquefois aussi un petit peu alignée. Donc on a vraiment une richesse de géométrie qui est vraiment très, très, très importante.
Et les habitants, alors du coup, c'est vrai que toutes ces batailles font que peut-être certains vivent dans des bâtiments qui sont un peu détériorés. Enfin, on a quand même, c'est vrai qu'il faut quand même décrire un peu visuellement. On a l'impression que le béton, il commence à fatiguer.
Vous avez vu la peinture là, sur les pavillons. Bon, ça, on voit, on ne peut pas garder ça comme ça. Il faut d'abord, les gens eux-mêmes ont repeint par moment les façades tellement c'était dégoûtant. Quoi. Donc c'est indispensable. C'est indispensable.
Les ravalements se font en principe tous les 20 ans. Donc vous vous rendez compte, la maladrerie, elle a 40, 45 ans, 47 ans même pour la première tranche. Donc il n'y a eu aucun ravalement de fait. 320 logements sont vendus à la RIVP, régie immobilière de la ville de Paris, qui va donc racheter 320 logements sur la partie jusqu'à la rue. Alors nous, notre grand souci, c'était que...
Donc là, on arrive dans les parties couvertes.
Dans les chemins couverts. On va passer par là.
Et là, on voit effectivement que même le plafond, il commence à fatiguer aussi.
Oui, non, ça c'est des travaux. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur la maladrerie que... Non, mais ça c'est des travaux qui ont été faits d'une façon inconsidérée et qui devraient être repris avec les travaux de l'ANRU. Alors, comme je vous disais, la RIVP va racheter donc 320 logements et nous craignons pour les terrasses jardins qu'elle risque d'être dallée, qu'on ait une séparation entre les deux parties. Et que la maladrerie ne soit plus une identité. Et donc, on a rencontré le directeur du patrimoine de la RIVP. Il nous a dit non, on respectera l'identité de la maladrerie, on respectera les terrasses et les chemins piétonniers continueront à fonctionner comme auparavant, sans séparation entre les deux territoires.
Et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors, pour l'instant, ils nous ont dit qu'ils ne toucheraient pas, mais bon, c'est vrai que c'est un risque. L'ANRU, ça a été une procédure donc publique qui a eu pour objectif de reconquérir
l'emprise foncière. Il y a des travaux, on va peut-être se décaler.
De reconquérir les grandes emprises foncières publiques et les privatiser, en fait. Ça a été, là, comme il y a eu la privatisation des entreprises, ben là, c'est la privatisation du logement social. C'est ce qui va se faire de l'autre côté, dans l'autre quartier, mais pas ici, pour l'instant. Mais ce qui risque de se produire aussi, c'est que la RIVP, pour l'instant, ne le fait pas. Mais elle peut très bien, un jour, décider de vendre un de ses bâtiments, les vendre à la découpe. Mais c'est ça, la menace, elle pèse sur le logement social, mais partout. Alors, les gens ici, au Bervilliers, se battent pour avoir du logement social, et c'est pas en le privatisant qu'on arrivera à régler le problème, quoi.
C'est donc la dernière tranche, et on sent l'évolution par rapport à ce qui a été fait dans l'autre partie. C'est plus angulaire, d'ailleurs, on l'appelle le château fort.
Ah ben, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est découpé en haut et que ça fait bien...
Oui, je voulais vous dire, c'est une grande architecte, vous savez, elle a eu donc un prix à Berlin, un grand prix de la Royal à Londres. Elle a eu le grand prix d'architecture en France, juste... à la veille de sa disparition. Et la maladrerie est labellisée architecture contemporaine remarquable. Et on a déposé un dossier pour l'inscription au monument historique d'un bâtiment de 90 logements, parce que la DRAC ne voulait pas, d'abord, il y a 2 ans, elle ne voulait pas qu'on inscrive toute la maladrerie. Et après, ils sont revenus en arrière. Une fois, on a déposé sur ce bâtiment de 92 logements.
Avec la petite sculpture en haut, là.
Oui, et donc on l'a déposé en octobre 23, et depuis ils nous ont réinterpellés en nous disant que ce serait bien de classer, en fait d'inscrire la totalité. Ouais. Donc on est en train de lancer cette...
On est totalement d'accord, parce qu'en tout cas on pense que ça évitera ça protégera des démolitions par exemple, hein, et puis des modifications qui la défigureraient. Voilà, donc ça c'est un premier combat qu'on a mené, parce que depuis 25 ans on se bat on s'est battu d'abord pour les terrasses, et maintenant, ensuite, on s'est battu pour le patrimoine, pour la préservation de l'architecture. Quand il y a une qualité urbaine et architecturale, ben les gens, en plus de se battre pour d'avoir les loyers accessibles et puis des charges les moins fortes, ben d'avoir aussi un environnement qui soit de qualité.
Elle a créé une identité architecturale pour les habitants, une communauté sociale. Et cette communauté, elle sort tout le temps pour se battre, pour discuter, pour échanger, pour protéger la maladrerie. Ça, c'est vraiment la réussite de ce quartier.
C'est parce que c'est ce quartier.
Ouais, alors, tout à l'heure, on a parlé de la victoire sur les pavillons. On a dit que les pavillons ne seraient pas démolis. Et on n'aura pas de résidentialisation parce que la ville a acheté les chemins. Donc l'OPH a vendu à la ville les chemins couverts. Ils sont publics, donc on n'aura pas de fermeture. Donc on peut dire que c'est une réussite totale par rapport à ces deux points-là. Maintenant, la lutte va être, parce que on a eu la convention de l'ANRU, on a le projet qui est décrit, et la concertation va démarrer en 2025. On a lu des choses très inquiétantes, du genre simplifier la tramvière. Alors ça, c'est ça la tramvière, hein, c'est où on circule. La simplifier, ça veut dire faire des chemins tout droits. Ce côté très labyrinthique auquel on tient complètement, on s'imagine qu'ils vont nous tracer des grandes lignes droites pour simplifier tout ça. Alors, le prochain combat pour nous, ne pas changer l'architecture des logements pour, par exemple, transformer des grands logements en mettant une chambre de plus, donc ça défigure l'architecture, et conserver tout le dessin, tout le tracé.
Et puis ça, il y a un petit peu de... C'est pas complètement plat.
Parce qu'il est en pente, le terrain. Et elle et le paysagiste ont proposé des solutions très intéressantes.
Des marches.
Très longues. Bon, là, on a un petit labyrinthe de parpaings qui fait le bonheur des enfants. Et puis nous aussi, on vient s'y asseoir. Quand on a des visites de quartier, on se retrouve ici, on discute, on échange. Voilà. Et puis là, on a de nouveau des escaliers qui démarrent. Et on a une variété d'escaliers, mais c'est incroyable. Donc, on veut absolument garder toute cette richesse de parcours. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle la Grande Pelouse, donc qui est un lieu... Alors, pour les enfants, bon, au printemps, ils se roulent dans l'herbe, on fait des repas, il y a des fêtes de quartier. Alors ici, on a une intersection de plusieurs chemins aussi, comme on a parlé de croiser des chemins tout à l'heure. Là aussi, c'est un lieu très intéressant. Hein. On a une branche à trois voies, là, et à trois cheminements. Et donc, on a le petit bois qui fait 4000 mètres carrés, avec 80 arbres qui ont bien poussé depuis l'origine. Et on l'a sauvé des griffes du Grand Paris, de la ligne 15, du Grand Paris Express, qui voulait implanter une ventilation tout au bout du square et nous supprimer notre square.
Et comment on pourrait décrire en fait l'impression qu'on a en regardant là par exemple ce bâtiment?
Alors, ça s'appelle la mosquée.
Ah d'accord.
Les gens appellent ça la mosquée. Alors là, ce sont des collaborateurs de René aussi qui ont réalisé, il y a 60 logements. Pareil, avec le même principe de logements tous différents, avec des terrasses jardins. Les façades sont un peu différentes.
Les fenêtres ont des formes un peu particulières.
Oui. Et alors, l'idée de René Gayousté était d'avoir planté généreusement et que les terrasses soient elles aussi pleines de verdure et que la verdure des terrasses rejoigne en fait la cime des arbres du rez-de-chaussée. Une sorte de continuité. Elle disait, mon architecture sera terminée quand elle sera envahie de végétal.
Je voudrais revenir sur l'histoire de la concertation. Alors, nous, c'est un peu particulier, notre quartier, dans la mesure où il y a toujours eu, quelle que soit d'ailleurs l'époque, des mobilisations d'habitants sur n'importe quelle question assez rapidement. Et évidemment, quand ça concernait l'environnement, les gens se mobilisaient. Et on a toujours été non seulement demandeurs, mais même à l'initiative. On a fait les assises de la maladrerie en l'an 2000 à peu près, qui a réuni des centaines d'habitants du quartier pour discuter de l'avenir, etc., des travaux à faire, etc. Déjà à l'époque, on avait des idées sur cette question. À chaque fois, les élus ont été un peu pris de court parce que, en fait, c'était à eux d'organiser la concertation, mais la concertation, elle existait de fait, hein, la mobilisation existait de fait.
Alors, si on va à gauche, on arrive sur une vraie rue, c'est ça ?
Et alors là, vous voyez, donc ça, c'est l'exemple, c'est comme une ruelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui part d'un niveau bas, enfin, du bas de la rue, et progressivement, on monte. On a donc une arrivée de lumière qui mène au petit chemin qu'on vient de prendre. Et puis après, après, quand vous voyez, le petit cheminement, il serpente. Et puis là-bas, on a une pointe de lumière hein, aussi, parce qu'il y a une percée.
Il faut peut-être dire aussi qu'à l'origine, ces circulations ici, vous voyez, ça, c'est un panneau qui était vitré. Et c'est un panneau qui donnait sur un atelier d'artiste. Alors vous avez plusieurs endroits comme ça, là, dans la circulation, où vous aviez des vitres. Et l'office a fait boucher tous ces... parce que les gens voulaient...
Une poussette qui va passer.
Ils voulaient pas qu'on voit l'intérieur de leur atelier, etc. Enfin bref, et maintenant c'est devenu des couloirs qui sont aveugles. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels on voudrait que les travaux reviennent, parce que pour animer ces couloirs, il faut absolument avoir des vitrages.
Tous les ateliers d'artistes ici sont occupés par des artistes.
Oui. Alors il y a 45 ateliers d'artistes, et on a aussi un pôle culturel avec une salle de spectacle, une bibliothèque, une médiathèque, et puis un centre d'art plastique.
Et là, on revient à votre agence qui est en rouge.
Oui, en rouge, oui.
C'est vous qui l'avez choisi, là.
Oui, rouge. Ben, comme ça, le rouge et le vert, c'est très beau.
Et on a terminé notre petit tour de la maladrerie. Eh bien, merci beaucoup pour cette balade.
Oui. Ben merci à vous.
Merci à vous pour votre visite. Merci d'avoir pris du temps.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez toujours l'émission Un peu d'air frais à l'atelier du documentaire. On parle de patrimoine architectural et on est avec Violette Arnoulet, urbaniste et sociologue, et Claudia, une habitante de la ZAC Basilique à Saint-Denis, qui est membre du collectif de défense de l'îlot 8, qui a été réalisé aussi par l'architecte René Gay-Loustet dans les années 1980. Alors peut-être tu peux nous expliquer un petit peu où se trouve cette ZAC basilique et comment c'est fait, pourquoi l'îlot 8, voilà, je te laisse nous expliquer un peu la base.
Alors, l'îlot 8, c'est un des îlots qui se trouve juste à deux pieds du métro de la Basilique, Saint-Denis Basilique, et dans l'hyper-centre-ville de Saint-Denis. Il est imbriqué à 9 îlots différents, à chaque fois conçus par des architectes différents en 1986. Et il concerne 184 logements, du logement social en PLAI. Et il est formé en deux niveaux. Il y a un niveau en ré... en raie de dalle, il y a une dalle à un niveau supérieur à l'arbu où il y a des services, où il y a par exemple une crèche, objectif emploi, un cabinet de radiologie, un local commun résidentiel et où il y a aussi du logement et il y a une galerie commerciale. Donc ces choses-là s'imbriquent les unes aux autres. Et viennent aussi s'imbriquer plusieurs autres îlots qui donc ont été conçus par d'autres architectes que René Gay-Loustet. Et comment... Alors voilà, ça c'est pour s'imaginer un peu comment est-ce que c'est fichu.
Donc là, il y a un projet de réhabilitation de l'îlot 8 et pas de... Enfin, le reste a déjà été réhabilité, c'est ça hein?
Alors, c'est plusieurs choses, parce que dans ces îlots, il y a du logement social et il y a aussi du logement privatif. Donc, pour ce qui concerne le logement social, c'est d'autres bailleurs. Nous, notre bailleur, c'est Pleine Commune Habitat, à l'îlot 4 et à l'îlot 8. Et les bailleurs de l'îlot 9... et de l'île ont réalisé une rénovation qui réhabilitation de cette partie-là de la ZAC et on faisait partie du coup des quartiers qui ont été élus par le NPNRU, donc le projet en rue de la ville de Saint-Denis. Et donc on a droit à la réhabilitation là qui va venir à partir de 2026 et qui est discutée depuis facilement 2016 les habitants.
Alors comment vous avez été informé de ce projet de réhabilitation? Est-ce que ça vous convient?
Alors, peut-être que je vais, avant de répondre à ta question, peut-être parler de un peu qui on est, nous, là, le collectif de l'Îlot 8, si ça te convient
bien
mieux.
Sûr, ouais. Comment il s'est construit ?
Alors, nous, on est un collectif d'habitants, on habite sur l'Îlot 8 et on s'est formé suite à un projet de, disons, c'était, attendez, je ne sais pas comment on dit, de déconventionnement, en effet, on avait entendu, de la part de la mairie communiste à l'époque, et on a commencé à se structurer à partir de 2015. Déconventionnement, c'était le... Ils voulaient faire sortir du parc social nos logements, clairement.
D'accord.
Et essayer... Parce qu'en fait, nos logements sont de volume assez atypique. Ils diraient, eux, ils ont... ils voulaient, en fait, par ce prétexte, sortir les logements du parc social en disant que, quelque part, ils n'étaient pas fichus pour certaines compositions familiales. Ça rejoint un peu ce que disait Violette tout à l'heure sur la question de l'attribution raciale et sociale du logement social. Et donc, par ce prétexte-là, nous, on a commencé à se dire, tiens, il y a des projets pour nos... Pour nos logements, on va se structurer. Et depuis, on a suivi la question de la rénovation par à la fois le biais... On est constitué en collectif informel d'habitants. On n'est pas diligenté, associé à une amicale de locataires, ni une association particulière comme la CNL ou le DAL, même s'il y a des gens dans notre collectif qui en font partie. On a voulu en fait garder cette marge de liberté pour pouvoir continuer et faire ensemble réellement, par-delà peut-être certaines conceptions ou divisions ou de vision de la lutte. Et donc on a voulu privilégier le fait de rester un collectif informel plutôt que de d'être associé à une enseigne, je sais pas.
Mais vous avez quand même l'information qui arrive à vous en tant que collectif informel.
Alors oui, parce qu'on s'est imposé comme tel vis-à-vis de la mairie communiste et après la mairie socialiste qui est là depuis 3 ans. Et aussi parce que on a été grandement aidé aussi par les conseils citoyens qui sont une instance obligatoire dans le cadre des projets en rue, dans le cadre de la co-construction, comme disait tout à l'heure Violette. Et du coup, comme on était invité à certaines réunions, parce que certains aussi d'entre nous siégeaient dans les conseils citoyens, de fait, on a toujours eu les infos à peu près, en tout cas quand elles étaient délivrées à ces instances-là. Est-ce que c'est au bon moment ? Est-ce que c'est en amont ? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir après les contrer, les réfléchir ? Ça reste à voir, mais en tout cas, on a toujours eu l'info.
Et alors comment vous... Donc là, au départ, c'est fini, ça. Vous avez gagné d'une certaine manière par rapport à ça. Ça ne sera pas privatisé, c'est ça ?
Alors, ça c'est encore autre chose, parce que nous, là, la réhabilitation, il y a plusieurs choses dans le projet qui nous concernent. Nous, il y a la réhabilitation des logements. Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on l'attend, parce qu'en fait, nos logements, on a beau les aimer, il y a une question d'entretien qui se fait plus depuis assez longtemps, qui font que on a des gros problèmes d'humidité, d'isolation, d'étanchéité, qui font qu'on a besoin d'une réhabilitation, ça c'est clair. Après, dans le projet, il y a la question de résidentialiser, c'est-à-dire isoler les différents îlots dont je parlais tout à l'heure, à la fois fermer le niveau de dalle dont je parlais tout à l'heure, et retourner les halls qui sont sur la galerie commerciale, parce qu'il faut savoir que pour Renée Gaillousté, ce qui était intéressant, c'est que elle mélangeait plusieurs choses, en fait. Elle mélangeait à la fois le logement, les services et les commerces, de manière à ce qu'il y ait de la rencontre, qu'on puisse traverser, circuler, à la fois dans la galerie la galerie, c'est à la fois un espace public, comme la dalle, et il y a de la circulation qui se fait et qui s'articule de plusieurs espaces. La résidentialisation, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut, en fait, casser ces possibilités-là. Elle veut fermer la dalle, casser les 6 escaliers qui donnent accès, et elle veut aussi retourner les halls qui sont sur la galerie marchande pour les faire connecter à la rue derrière. Et du coup, comment dire, y a un problème, en fait, ils veulent clarifier les espaces. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils sont... Ils trouvent que à contrôler, à gérer, c'est trop compliqué de mélanger les choses. Et tu voudrais dire quelque chose ?
Oui, ce principe de résidentialisation, c'est dans les grands principes de l'ANRU. L'ANRU, ils ont un ensemble de principes d'intervention urbaine, dont la résidentialisation. Et l'idée de la résidentialisation, c'est de séparer nettement du public et du privé. Ça a du sens dans pas mal d'ensembles sur dalles où il y a eu des... chevêtrement de propriété et notamment des gros soucis de gestion des parkings, de gestion de certains espaces qui sont pas clairement attribués. Simplement, ça prend une forme de séparation physique des espaces, alors qu'en fait on pourrait imaginer une clarification des propriétés et des règles d'entretien sans forcément de séparation des espaces. Il n'y a pas besoin d'une grille pour savoir jusqu'où est-ce qu'on nettoie, qui est responsable de quoi. Simplement, il y a un mélange des deux. Et en fait, ça, c'est aussi la préparation d'îlots bien définis, d'ensembles de propriétés bien définies, qui, un jour, pourront faire l'objet d'une vente à la découpe. Donc, je pense que ça, c'est assez important. Résidentialisation, déconventionnement, privatisation, c'est pas en même temps, mais c'est quand même, ça prépare. Et peut-être aussi dire pourquoi les bailleurs, ils font ça. Pourquoi des bailleurs, ils accepteraient la déconventionnement. C'est-à-dire, on a un patrimoine social, on n'en fait plus du social. Quand on a un bailleur social, concrètement, ça n'a pas de sens. Ils le font parce que, en partie, ils sont hyper contraints par des nouvelles règles de financement. Il y a eu la loi Elan, puis il y a eu la loi de finances de 2017, donc c'est le début de l'action d'Emmanuel Macron, qui leur a privé de grosses ressources et, en même temps, des nouvelles règles qui les incitent très fortement à vendre leur patrimoine pour devenir des acteurs de marché comme les autres. Et ça, je pense, c'est hyper important de l'avoir en tête, parce que eux, du coup, ils sont prises avec ces contradictions-là. Il y a des gens en interne qui sont très pour, mais il y en a d'autres qui sont contre. Et ils font face à des habitants qui sont contre, sauf qu'ils n'ont pas les marges de manœuvre financières, forcément, pour revenir en arrière.
Voilà. Ça tombe bien que tu dises ça, parce que nous, un des enjeux aussi de la résidentialisation, quand ce ne sera plus l'espace public sur la dalle, et que nous, on ne passera plus par des chemins qui sont aussi dans l'espace public, on sera que livrés à nous-mêmes. Et aussi, il y a la question de qui pourra payer le coût de tout ça aussi parmi nous. Et ça, ça va se faire de manière assez dégueulasse et souterraine, c'est-à-dire qu'en fait, ça va se faire par des hausses de charges communes dont on ne connaît pas encore le chiffrage et donc on ne peut même pas s'y préparer. Et ça va se faire au compte-gouttes. Ça veut dire aussi que tout le collectif solide qu'on a mis en place sur de longues années, comme ça dure très longtemps aussi, les projets en rue, c'est difficile de suivre sur le long cours, eh bien, en fait, ce collectif-là, eh bien, il va être dissous dans du compte-gouttes. On va nous manger au fur et à mesure, et ce sera qui pourra encore payer. Et donc, du coup, c'est ça le danger de la résidentialisation. Et aussi, c'est juste pour des questions purement de contrôle et de sécurité, en fait, qu'on fait ça. Disons que la municipalité, depuis qu'elle est là, la municipalité socialiste de Mathieu Hanotin, eh bien, elle se réunit tous les lundis avec le commissariat de Saint-Denis. Il y a eu des points assez réguliers sur qu'est-ce qui se passait sur la dalle, par exemple, et qu'est-ce qui se passe sur l'îlot 8, parce qu'en fait, c'est une architecture qui est ingérable d'un point de vue contrôle social en cas de de poursuite. Et à la fois, moi, je trouve ça hyper important, en fait, que ce soit comme ça et que ça reste comme ça et que ça reste libre. Et du coup, c'est uniquement pour des questions de sécurité qu'on veut mettre en place ces questions-là. Et voilà.
Peut-être on va faire une petite pause musicale et puis on écoutera après on reprendra avec Marilyn.
Ah, d'accord. Ah d'accord, donc du coup c'est...
de Libertaire 89.4. Donc on était en train de discuter avec Claudia donc de la lutte à l'îlot 8 à Saint-Denis, donc dans l'îlot 8 qui est la partie architecturale construite par René Galoustet. Donc René Galoustet, donc peut-être tu peux... Donc là, le collectif s'est monté, on a vu un peu pour quel point il se mobilisait. Et du coup, vous en êtes aussi arrivé à faire un recours juridique.
Ouais, en fait, c'est une de nos façon de lutter, en fait, quand il y a eu la convention du NPNRU qui est tombée en 2022, on a vu qu'une des manières de contrer du coup le projet, ce serait de lancer un recours juridique, et on l'a lancé à deux titres. Au titre de défaut de concertation, parce qu'à partir du moment où, en fait, il y a la mairie socialiste qui s'est ancrée à Saint-Denis, le projet a complètement changé. Et justement, la question de la résidentialisation est venue au premier plan. Et donc, il n'y a pas eu de concertation possible avec cette mairie. Tout était ficelé, tout est fait de manière... avec des réunions publiques où on déverse l'information, mais où il n'y a pas du tout de construction comme prévu par l'ANRU. Donc, voilà pourquoi on a fait ce recours. Et on l'a fait sur le volet de la résidentialisation et pas pour la réhabilitation qu'on attend, qui est nécessaire, puisqu'il y a une stratégie de pourrissement de la part de PCH aussi qui se fait pour à la fois la rendre nécessaire et à la fois nous pourrir la vie jusqu'à qu'on ait la résidentialisation en attendant.
Merci Claudia. Alors donc là, on va effectivement parler d'une autre question qui est la question d'un bâtiment architectural, l'ex-bâtiment Bison Futé, qui était abandonné, qui va être réhabilité en logement, en résidence sociale. Et voilà, je te laisse Marilyn la parole.
Alors, donc, l'architecture des logements sociaux, on reste donc sur ce sujet. Nous allons écouter un reportage sur la réhabilitation en cours d'un bâtiment en résidence sociale pour migrants. Et en lien avec l'architecture, l'actualité architecturale, nous serons donc en direct à Rosny-sous-Bois avec ce reportage que nous allons écouter. Mais dans un premier temps, ceci nous amène à nous pencher sur la question du logement des migrants en France. Et d'abord, un bref historique. On remonte à 1956 et la mise en place par les pouvoirs publics de foyers construits par des structures dont la plus connue, au nom de Sonacotra, deviendra en 2007 Adoma, dont la mission est la réhabilitation des anciens foyers. Puis dans les années 1992, l'ouverture de résidences sociales. Alors Coalia est aussi un opérateur social, anciennement AFTAM, fondé en 1962. Alors nous nous sommes rapprochés d'un foyer géré par Coalia, occupé par des travailleurs migrants. Ce foyer donc situé rue Allemagne à Rosny-sous-Bois, en cours de déménagement. La première étape du déménagement vers le nouveau foyer, situé juste en face, a eu lieu en juin 2024. Puis suivra pour les résidents du foyer Allemagne la deuxième étape du déménagement en 2026, vers le bâtiment de la gendarmerie. Donc, réhabilitation sur le site, un ancien site de Bison Futé de la gendarmerie en cours de réhabilitation, situé à quelques mètres du foyer actuel. Alors, on va rejoindre le chantier de réhabilitation en cours avec le reportage de Stéphane et un montage de Christelle en direct, Bison Futé.
Bonjour Gabrielle, est-ce que tu peux nous présenter l'endroit où nous sommes ce matin à Rosny-sous-Bois ?
Alors bonjour, Gabriel Couturier, architecte au sein de l'atelier Canal. Et aujourd'hui nous nous trouvons dans l'ancien bâtiment donc du CNIR, du Centre National d'Information Routière, donc, qui était basé à Rosny-sous-Bois sur les flancs de la colline du fort de Rosny-sous-Bois. Et donc c'est un bâtiment dans lequel Bison Futé a officié durant environ une trentaine d'années, depuis les années 85-86 jusqu'à 2016, et depuis désaffecté. Et récemment, c'est le projet lancé par Batigère Habitat Solidaire qui vise à le transformer en résidence sociale pour travailleurs migrants.
D'accord. Alors ici, dans, je sais pas, cette entrée ici, il y a un slogan écrit en grand, engagé pour la qualité du logement de demain. Il y a pas mal de panneaux informatifs destinés au public, c'est ça ?
Alors oui, la chance de ce projet, c'est qu'il a été lauréat du programme AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelle Engagé pour la qualité du logement de demain. Donc c'est un programme lancé par le ministère de la Culture et du Logement en 2021 et qui visait à incuber un certain nombre de projets pour faire des expériences, un peu de recherche aussi, et donner les moyens à certains projets de se réaliser et également de financer un peu la recherche quoi, sur ce domaine-là. Et dans le cadre du projet ici, c'est donc la transformation du bâtiment, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail après, mais ici ce qui est particulier, c'est que c'est un bâtiment emblématique des années 80, donc qui a une valeur patrimoniale assez importante, qui est transformé donc de bureaux à logement, mais à l'aide surtout d'un processus industriel qui est la préfabrication de modules tout équipés hors site et qui viennent s'assembler directement sur le site de l'opération. Le volet de l'AMI qui est mis en valeur ici, c'est celui de la qualité d'usage des logements, où on a des habitations qui sont, on va dire, relativement, pour des surfaces pas très élevées, c'est sur le modèle de la studine, on va dire, qui font à peu près 18 mètres carrés, et où on a une population qui ne sont pas des étudiants, qui vont venir résider ici, et l'enjeu, c'est ici d'avoir une approche même un peu sociologique en amont, pour prévoir les aménagements intérieurs et le design pour que ce soit le plus appropriable par les futurs résidents.
Alors ici, on est peut-être dans la partie la plus conservée de l'époque années 80, c'est un immeuble des années 86 je crois.
Alors c'est ça, c'est un immeuble qui a été construit en 85-86 par les architectes lillois Gilbert Delcourt et Ludwig Peretz. Donc assez emblématique avec un grand fronton et on va dire une couronne intérieure où on avait la grande salle de contrôle où on aura l'occasion d'aller un peu plus tard. Et ici on se trouve par exemple dans le grand hall d'entrée en double hauteur qui distribuait avec un escalier en mezzanine l'ensemble du bâtiment. Et donc son caractère un peu patrimonial, c'est qu'il a été construit en béton, parce qu'à l'époque c'était le classique. Ici on est plus sur le mouvement moderne, on va dire. On a des parements briques, une structure en béton.
Donc les parements en briques cachent le béton, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça. On n'affiche pas totalement non plus le béton aujourd'hui. Il est mis à nu parce que c'est l'état de curage du bâtiment. Mais c'était surtout la brique qui était mise à l'honneur dans le bâtiment d'origine.
On a une position dominante ici, on est dans un... C'était un fort militaire du 19e siècle.
On est sur un des points hauts du territoire de Rosny. Il y a le fort qui est juste au-dessus avec la gendarmerie de Rosny. Et historiquement, ce bâtiment appartenait justement à la gendarmerie. Et il a été cédé vers Batigère Habitat Solidaire pour l'opération.
Est-ce que Bison Futé, ça dépendait de la gendarmerie nationale à l'époque ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc là, on est dans un immeuble assez emblématique de l'époque du tout automobile, c'est ça, des Trente Glorieuses, quelque chose de, comme ça, qui est très lié.
C'est ça, c'était un peu le poste de pilotage des informations routières de ces époques-là, dont je pense que beaucoup se souviennent encore. Il y avait une station de radio dédiée, il y avait des studios qui étaient intégrés au bâtiment à l'étage, et il y avait une grande salle de commande centrale avec plein d'écrans, un peu d'accord. Un poste de contrôle central.
Ok. Donc on peut peut-être monter dans la salle de commande.
On peut y aller, même si aujourd'hui son état a un peu a été transformé déjà.
Quel est ton prénom ?
Shrif.
Alors, il y a longtemps que tu travailles sur ce chantier ?
Oui, ça doit faire à peu près un mois. Nous, on s'occupe de la partie démolition. Et ça va, tout se passe bien. On a presque fini, nous. Et voilà.
Tu vas rester encore combien de temps ici ?
Oh, moins de un mois, je pense.
D'accord. Ouais, moins d'un. Donc tu ne seras pas dans la phase construction ?
Non, nous on s'occupe que de la partie démolition.
Démolition.
C'est ça.
Et en général, qu'est-ce que tu fais comme chantier de démolition ?
Un peu de tout, de la rénovation, de la démolition totale. On fait un peu de tout.
D'accord. Et l'avant-dernier chantier, c'était quoi ?
C'était des balcons à Reuil. On a démoli des jardinières en béton. Voilà.
Est-ce que ici il faut démolir mais en même temps il faut conserver, c'est ça la question ?
C'est ça. Il faut démolir et conserver. Il y a des parties à casser et des parties à pas toucher.
Et en fait la salle centrale qui était au premier étage, vous l'avez complètement démolie ?
Non, qu'une partie. Qu'une partie. On a fait des ouvertures pour que le Bobcat y passe.
Qu'est-ce que c'est le Bobcat ?
C'est une machine pour décharger les gravats, tout ça. D'accord. Charger, décharger.
D'accord. Est-ce que maintenant, c'est à ciel ouvert maintenant ici ?
Oui, c'est ça. Toute la partie en haut, on l'a cassée. D'accord. Pour faire les ouvertures et eux, ils vont rattraper pour la construction.
D'accord. Et tu sais à quoi est destiné le bâtiment plus tard ?
D'après ce que j'ai entendu, on m'a dit un foyer. Après, je ne sais pas.
Oui, c'est un foyer pour travailleurs migrants, je crois.
C'est ça.
Et voilà. Toi-même, tu en as déjà fréquenté des foyers de travailleurs ?
Bah oui, on a une équipe.
D'accord. Okay. Mais plus personnellement, tu y as habité déjà dans les foyers de travailleurs ?
Ah non, du tout. Non. Non, du tout. Je sais pas du tout comment ça se passe. Ça.
Bah merci beaucoup.
De rien, je vous en prie.
Tu peux nous parler donc de cette salle des commandes ?
Oui, donc ici on se trouve donc en chantier dans l'ancienne salle centrale de commande et de pilotage du CNIR. Aujourd'hui, donc comme c'est prévu au projet, on vient créer un patio à la place de cette ancienne salle de commande. Ce patio, il donnera de la lumière aux logements qui seront installés sur la couronne intérieure du bâtiment. Donc c'est une nécessité pour la transformation du bâtiment. On va dire que l'espace central qui était anciennement le poste de pilotage deviendra l'espace de respiration du futur projet de logement. Et l'attention qui est quand même laissée ici, c'est qu'on a encore en plancher haut, en toiture, les anciennes poutres qui rythmaient le rayonnement de cette salle.
Elles restent, elles vont rester.
Voilà, c'est ça exactement, qui vont rester. Et on a aussi là en visuel à la coursive, qui était en double hauteur sur ce poste de pilotement. En gros, on avait des bureaux qui étaient à l'étage, des bureaux un peu plus spacieux qui étaient ici au rez-de-jardin. Et tout à droite, là-bas, on avait les studios de diffusion de radio.
Quand tu parles de valeur patrimoniale de ce lieu, tu peux en donner les raisons?
C'est un bâtiment qui avait beaucoup de qualité hein, dans ces espaces donc qui sont transformés, réhabilités au projet. Juste, j'en ai pas parlé encore, mais les surfaces de l'ancien bâtiment, c'est à peu près 2500 m². Le projet futur, c'est 5200, donc on fait plus que doubler les surfaces. Donc il y a la moitié du projet qui est transformé de bureau à logement. Et ça, c'est permis par les qualités du bâtiment d'origine. On avait des hauteurs souffle au plafond qui étaient importantes pour du bureau. Donc on peut arriver à mettre du logement sans trop de soucis à l'intérieur. Toutes ces grandes façades côté nord permettent aussi aisément de s'approprier l'espace pour mettre des cellules de logement à l'intérieur. Voilà. Et l'aspect brique qui est conservé tout à fait et restauré, qui fait encore l'atout du projet aujourd'hui et qu'on a tenté de respecter au maximum dans la proposition architecturale du concours.
Alors tu as parlé de studines, qu'est-ce que c'est les studines et à qui elles sont destinées ces studines?
Les studines, c'est ce qu'on fait traditionnellement pour le logement étudiant, hein. C'est des cellules à peu près de 18 m² qui sont autonomes, donc une petite kitchenette et une salle de bain. Donc c'est destiné à pouvoir y vivre donc seul généralement de façon autonome.
Sauf qu'ici, on ne sera pas avec des étudiants ici.
Voilà, exactement. Ici, ce sera une population un peu plus âgée, historiquement de travailleurs migrants. Et donc la question posée, et qui est soulevée aussi par l'AMI engagée pour la qualité du logement de demain, c'est ici de pouvoir rendre l'espace appropriable par les gens qui vont résider dans ces cellules. Et donc il y a eu un travail d'enquête sociologique mené par l'atelier depuis maintenant quasiment 2 ans. Des consultations, des interviews vers des résidents de résidences en Île-de-France, etc. Et qui s'est concrétisé dans la fabrication d'un petit livret qui va être publié en début d'année prochaine, qui s'appelle L'AMI Futé, et qui retrace un peu tout ce parcours de recherche de l'atelier. Alors ici, ici pour contextualiser encore plus l'opération, on a un foyer de travailleurs migrants qui est juste en face de l'autre côté de la rue, qui fait à peu près 300 chambres. Et donc ça, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années fin d'années 70, à l'époque où il y avait un plan national de construction de ce type de bâtiment, qui était appelé concrètement des foyers de travailleurs migrants parce que ça accueillait justement de la main d'œuvre qui venait. Donc là, dans ce cas-là, c'était essentiellement de l'ouest de l'Afrique, je crois, et du Maghreb. Et donc, concrètement, c'est des cellules de 7 mètres carrés avec des espaces communs, donc les cuisines communes et des sanitaires communs. Et aujourd'hui, donc, ils sont un peu vieux, ces bâtiments. À l'époque, ils avaient été construits avec des normes qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a un plan de transformation des foyers de travailleurs migrants qui vise à les reconstruire sous la dénomination de résidence sociale. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Les futurs habitants sont ceux qui habitent déjà à côté. En fait, ils vont juste déménager de quelques dizaines de mètres.
Il y en a la moitié qui va venir dans le projet là, de transformation du CNIR. Il y en a déjà la moitié qui sont transférés sur la parcelle à côté. D'accord. Sur un autre projet mené par le cabinet d'architecture Croix-Marie Bourdon. D'accord.
Alors cette précision dont tu as parlé déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cuisine commune, plus de salle à manger commune dans le projet, c'est ça, hein?
C'est l'objet de ce plan de transformation des foyers de travailleurs migrants en résidence sociale, c'est que pour la gestion du bâtiment, l'accent programmatique maîtrise d'ouvrage, c'est plutôt de fabriquer des cellules autonomes où chacun a son espace vital propre sans avoir forcément d'espace commun sanitaire et de cuisine.
La cuisine, comment elle se fera dans ces studines donc?
Oui, c'est ça, il y a des petites kitchenettes hein, avec des plaques et un évier.
Donc c'est un peu comme une caravane, c'est ça?
C'est quand même un peu plus concret qu'une caravane.
Au niveau de l'aménagement de la kitchenette
Oui,
pour que les gens puissent visualiser un peu.
Non, basiquement, c'est un plan de travail avec un évier et une plaque juste à côté. Mais justement, c'est ce type de normalité, d'aménagement pour du logement étudiant qui est si questionné pour ce type de population-là. On peut se demander, est-ce que la plaque traditionnelle de l'étudiant conviendra ? D'accord. Pas forcément.
Et il n'y aura pas du tout d'espace commun, de salle, de, je sais pas, de foyer, de choses comme ça.
L'occurrence, dans le programme, on a une salle polyvalente à destination des résidents qui fait à peu près une cinquantaine de mètres carrés, qui est, on va dire, un des seuls espaces revendiqués comme commun. Après, on a quand même des larges circulations. Là, le bâtiment existant, ses qualités, c'était aussi qu'il ait une distribution plutôt claire et plutôt généreuse. Donc ça se fait aussi au profit de la future résidence. Comme on l'a vu, il y a un grand hall dans lequel les gens se croiseront forcément, les grandes circulations aussi. Et l'atout aussi du site, c'est qu'on a un grand jardin périphérique dans lequel on se trouve là actuellement et qui sera aménagé, qui peut être considéré aussi comme un espace commun. On rajoute deux niveaux supérieurs, mais on étend aussi horizontalement le bâtiment. Pour doubler les surfaces, c'est nécessaire.
D'accord. Alors, au sujet de ces extensions, qui sont donc des modules, qu'est-ce que tu pourrais préciser,
voilà. Alors oui, bon, les extensions, elles sont principalement ici réalisées en ossature bois préfabriquée hors site par un industriel, donc avec une méthode où ces logements, ils sont assemblés en usine hors site, donc avec toutes les finitions intérieures, la salle de bain, la kitchenette comme on évoquait tout à l'heure, et donc toutes les finitions sont calées en usine et ils sont livrés sur site, juxtaposés et superposés sur site, et ensuite une fois qu'ils sont posés, on vient faire une enveloppe périphérique pour faire les façades, le bardage, l'étanchéité et également en toiture. Et ça, donc, ça a des atouts déjà en termes de gestion des malfaçons ou des réserves en chantier. Au vu que les conditions d'atelier sont plus, on va dire, souples et plus strictes que sur un chantier avec plein de corps d'état présents, on a moins de réserves, nous, en tant que maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, à vérifier.
Alors, qu'est-ce que c'est une réserve ?
Parce que... Une réserve, c'est quand un ouvrage est, on va dire, mal réalisé. Et que le maître d'œuvre doit faire reprendre, on va dire, la chose vers l'entreprise qui est en charge de la réalisation.
Et ça arrive souvent ?
Là, sur des chantiers avec plein de corps d'état présents, oui, ça arrive souvent.
Alors, le bâtiment, il va gagner combien en hauteur ? Parce que...
On va rajouter concrètement un niveau sur la face nord, donc c'est à peu près 4 mètres de haut, on va dire. Et de l'autre côté, on va rajouter deux niveaux, donc c'est à peu près 8-9 mètres. Quoi. Bah, ici, on est à flanc de colline, donc toute la façade nord aura une vue dégagée sur le territoire de Rosny. Et de l'autre côté, ce sera plus une vue qui sera sur le flanc de colline du fort de Rosny. Donc c'est assez boisé.
Dans ce jardin, il y a des espaces de convivialité qui sont prévus
Il y a une grande, on va dire, allée d'accès qui donne accès à l'ancienne porte principale du hall d'entrée de Bison Futé. Donc c'est ici, je pense, que vont converger les résidents. Et après, la surface elle-même sera certainement appropriée par les résidents.
Mais vous, par exemple, vous les avez rencontrés, les futurs habitants qui sont des habitants qui sont à côté ? Vous les avez rencontrés ?
Justement, alors là, le premier contact, on va dire, c'était juste après le concours, donc après que l'atelier ait fait sa proposition architecturale. Et c'est à ce moment-là que, justement, l'atelier a réalisé que la population qui allait résider ici, c'était pas une population étudiante. Et c'est ça qui a aussi déclenché un peu le processus d'approche sociologique dont je vous parlais tout à l'heure, où l'atelier s'est rapproché de différents résidents dans les foyers au travers de l'Île-de-France pour recueillir justement les paroles de gens qui vraiment vivent ce genre de bâtiment et voir sur quoi ça pouvait aboutir.
Patrick Rubin, il disait dans un entretien qu'on ne pourrait plus construire aujourd'hui des bâtiments de cette consistance-là, de cette robustesse-là, donc 35 ans plus tard, 40 ans plus tard. Pourquoi ?
Bah aujourd'hui, c'est surtout, comme je vous disais tout à l'heure, les atouts, c'est les circulations et l'attention qui avait été portée sur les façades, notamment, parce qu'on n'a pas l'impression, mais les briques, on a plusieurs traitements. Il y a des plaquettes, il y a des briques pleines, il y a aussi pas mal de soupiraux. On ne le voit pas tout de suite, mais il y a plein de petits détails de réalisation qui sont des choses qu'aujourd'hui, on a des difficultés à réaliser avec les entreprises d'aujourd'hui. La démarche de l'atelier, hein, depuis plus de 40 ans maintenant, hein, c'est de ne plus détruire, transformer tant que c'est possible. Mmh. Les bâtiments, en tout cas, qui ont des atouts pour changer d'affectation. Mmh. Et ouais, il y a beaucoup de cas où ça se révèle possible et c'est même fructueux, on va dire, pour le projet.
Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va plus généralement vers une transformation des immeubles de bureaux avec la... une sorte de résilience du tertiaire vers transformer en logement, on va...
Aujourd'hui, on sait que déjà, il y a un vivier important, hein, de surface de bureaux, déjà en Île-de-France, mais je pense à une échelle aussi plus large, qui ont des qualités réelles pour la transformation en logement. Et donc ça, il faut les exploiter, c'est sûr. Et ça va de pair avec l'idée de, aujourd'hui, reconstruire quelque chose à neuf à la place de l'ancien. C'est un peu une aberration quand on sait que le bâtiment peut être conservé d'un point de vue carbone, écologique. Il y a plein de raisons à ça qui fait que se poser les questions pour transformer les choses plutôt que les détruire, c'est vraiment une question qui est d'actualité.
Et c'est livraison ?
C'est livré, on va dire, premier ou deuxième trimestre 2026.
D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Pour la suite de cette chronique, nous restons à Rosny-sous-Bois, où, après avoir pris connaissance de ce projet destiné aux travailleurs migrants, nous avons voulu avoir le point de vue des futurs résidents sur l'évolution des foyers au regard des consultations prévues sur les aménagements du bâtiment. Alors, nous avons été reçus avec Amanda au foyer Alleman par les 5 délégués élus représentant des locataires, dont certains sont résidents depuis 30 à 40 ans, des hommes originaires du Mali, du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. Alors, sur l'évolution du statut de foyer de travailleurs migrants qui passe en statut de résidence sociale, l'attribution se fait pour les logements à 70% par Coalia, 30% par la préfecture et la mairie. Les nouvelles résidences sont de 18 mètres carrés. Elles sont destinées au logement de sans-abri, de femmes avec ou sans enfants, et aux seuls résidents du foyer qui, occupant une chambre à leur nom, sont admis à déménager. Alors, sur le mode de vie en résidence sociale, le foyer Alleman de Rosny-sous-Bois ne fait plus l'objet des travaux requis. Sur les bâtiments de 7 étages, l'ascenseur n'est pas réparé. Nous avons été reçus dans une salle de réunion non chauffée, en accès libre. Une autre salle pouvait être disponible dans le nouveau bâtiment pour nous recevoir, mais il aurait fallu réserver à l'avance. En mode résidence sociale, les conditions horaires restreignent l'accès aux espaces communs fermés à clé, pour moins de souplesse d'accès à la salle collective. Et avec la question importante des espaces communs. Au foyer Alleman se tiennent dans le hall d'entrée de petits étalages de vente, de thé, de dattes et petits objets, commerce informel toléré. Ce mode est exclu dans les nouveaux bâtiments. La cuisine collective, qui a fermé il y a déjà 9 ans par les services d'hygiène, n'a jamais réouvert. Exclut également les fêtes qui avaient lieu en été devant le foyer et qui ont été interdites. Les jeunes migrants proches des anciens résidents tentent, quand ils le peuvent, de se loger hors des foyers. Ils ont tendance à opter pour un mode de vie plus autonome par rapport à leurs aînés, pour lesquels le mode de vie communautaire se pose comme affirmation d'une culture et aussi comme nécessaire réaction solidaire aux politiques xénophobes à la base de la fondation de ces foyers de travailleurs migrants dans les années 1950. Alors, pour terminer sur la question des consultations, il y a 3 ans, Les informations sur les projets de réhabilitation des résidences sociales ont été transmises aux délégués. En lien avec le déménagement dans le bâtiment investi en juin 2024, les délégués du foyer Alemann ont formulé leurs observations sur les nouveaux aménagements. Douche trop petite, plaque chauffante chauffant insuffisamment. Depuis, ils n'ont reçu aucun compte-rendu. Donc les architectes de Canal Architecture, dont le chef de projet que l'on vient d'entendre, sur le projet de réhabilitation en cellule de logement autonome avec sanitaire, kitchenette, sans espace commun, initialement pensé pour le logement d'étudiants, évoquent une consultation auprès de différents résidents à travers l'Île-de-France, une étude ethnologie visant à rendre, je reprends la formule, de la personne sur le chantier, les espaces, rendre les espaces des cellules appropriables par les résidents immigrés. Alors, une question de concertation. Ceux du foyer Alemann, habitants du secteur au plus près du chantier, n'ont pas été consultés.
Merci Marilyn. Alors on va, il nous reste plus beaucoup de temps pour conclure. Peut-être Claudia, tu peux nous dire un peu où en est la lutte justement par rapport à l'île 8 de Saint-Denis.
Alors, pour faire rapide, on est en... pour le recours dont je parlais tout à l'heure, là, la mairie fait jouer la montre. On n'a pas de, d'écho juridique de la part de leur avocat. Et par ailleurs, là, il y a un calendrier qui se bouscule avec le retournement des halls et l'aménagement de la galerie qui se situe du coup en bas de nos bâtiments. Eh bien, il y a un nouveau dépôt de démolition, de construction qui va être mis en place. Et du coup, va se jouer du coup un petit combat contre ce dépôt et aussi avec, on espère, un dialogue avec les architectes des bâtiments de France et les architectes aussi qui soutiennent le collectif de l'îlot 8. Voilà où on en est.
Et Violette, elle va peut-être aussi nous faire une petite conclusion. Merci Carmine, pas te mettre trop fort.
Non, mais merci de m'avoir reçu. Et puis, si vous voulez le lire, ce rapport de l'Observatoire des projets urbains imposés et contestés, vous vous rendez sur le site d'appui et il est téléchargeable en ligne très facilement.
Et vous pouvez le trouver, on a mis le lien sur notre blog www.airfray-radio.fr. On se retrouve dans un mois. Au revoir.
Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world, and spending most of their lives living in a future paradise, and spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past time.
l'opéra, au paradis, où sont en plein jour les étoiles. Je prendrai mon bâton et sur la grande route, j'irai et je dirai aux ânes, mes amis, je suis Francis James et je vais au paradis. Je leur dirai, venez, doux amis du ciel bleu, pauvres bêtes chéries, qui d'un brusque mouvement d'oreille chassaient les mouches plates, les coups et les abeilles.
Il y avait dans la gorge à Jimmy tant de soleil à 300 balles, du blues, du rêve et du whisky, tout comme dans les bars à Pigalle. Dieu est nègre, c'est à la une des quotidiens. Ça fait du tort aux diplomates. Jimmy l'a vu au petit matin avec un saxo